va se gêner sur Europe 1.
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 ce vendredi avec Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué et si Air France veut bien nous le rendre, puisqu'il arrive directement de Polynésie dans
le président
quelques...
polonais.
Dans quelques instants, d'ici, je sais pas, peut-être un petit quart d'heure, l'arrivée et le retour d'Olivier de Kersauzon. Mais avant, je suis bien obligé de continuer à parler de la polémique. polémique en cours à propos de Jérémy Michalak. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Isabelle.
Et, j'ai cru comprendre.
Et vous,
oui,
Philippe Alfonsi, ça fait 2-3 jours que ça dure. Les auditeurs ont été finalement choqués par l'intervention de Jérémy soutenant cet élève qui a envoyé une bouteille d'eau sur l'épaule du président de la République. Alors que nous, tous autour de cette table, évidemment, nous pensions que c'était un acte
bien
inconscient. Un acte de mépris, un acte qui ne doit pas se renouveler.
Irrespectueux,
Jérémy a fait. Oh là là, c'est pas grave, c'est un truc de gamin. Et ça, c'est une phrase qui est remontée jusqu'à l'Élysée.
J'ai cru l'entendre.
Et les auditeurs vous en veulent énormément.
J'avais que des mails de soutien.
Ah bah oui, mais moi, hier, je voulais vous remonter le moral. Mais la vérité, c'est que c'est 50-50. Il y a quelques mails de soutien, là. Par exemple, un autre Jérémy, je me demande, c'est pas vous qui écrivez d'ailleurs.
C'est con pour pas changer de prénom.
Je ne suis pas d'accord avec la façon dont Joujouet a été critiqué dans l'émission à propos de cet incident avec Nicolas Sarkozy. Attention Laurent, le petit pourrait monter en grade et devenir l'assistant du futur patron d'Europe 1 et se venger contre toute l'équipe. Titoff pourrait ainsi être muté au 6-9.
La punition.
Fabrice Eboué à Café Crime.
Ah oui, on devrait faire ça à la grille.
Et vous Laurent sur RTL, voir si Joujou est un peu sadique sur Radio Montmartre ou France Culture. Courage Jérémy, tu es le meilleur. Fabrice ?
Non, Benichou, il le mute où ?
Ah bah, ils en parlent pas. Sa cote baisse, ça, Pierre. Je profite de son absence pour dire que sa cote baisse.
Il y a des choses qui sont plus faciles à dire quand il n'est pas là, quand même.
Oh, il aura toujours une place à Radio Shalom, ça va.
Il n'y a qu'un seul mec qui a pleuré. Ouais, bravo Fabrice.
Et bien monsieur l'antisémite, on vous a reconnu.
Il s'est arrêté tout d'un coup.
On sait ce que vous avez fait en 40, monsieur.
Bon, et Daniel, alors où est-ce qu'on la mute, Daniel, notre fan numéro 1?
Ben Daniel, il faut réussir à la décoller du siège déjà pour la muter.
Elle tient la forme, hein, Daniel. Hein.
Ça.
Vous allez voir, un jour, Isabelle Motreau sera aussi vieille qu'elle.
Oh, c'est déjà presque le cas. Hein.
C'est vrai, Isabelle.
Oh, oui, bah,
qu'est-ce qui se passe, Isabelle Motreau? On sent que vous avez quelque chose, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue,
Non.
Il y a quelqu'un qui vous use, on le sent, ça.
Ah non, pas du tout. Parlez de Fabrice Eboué?
Non.
À part qu'il m'invite pas, c'est fait. C'est tout.
C'est vrai, comment ça s'est passé votre soirée au Murano? Oh,
c'était quelque chose du beau monde. Hein.
Ah enfin, oui,
c'était show business.
Ah ouais. Racontez, parce qu'il mixait au Murano hier soir.
Des grosses vedettes, il y avait Philippe Alfonsi. Philippe Alfonsi est passé aussi à un moment. Et puis non, il y avait Harry Roselmack quand même.
Harry Roselmack,
ouais. Ah ouais, bah ouais, beaucoup de vedettes.
L'écrivain.
je suis dégoûté. Du beau monde.
Voilà, je tournais hier soir, mais en revanche, je serais DJ moi aussi. Dans 2 semaines, vous viendrez, Fabrice.
Là, je viendrai.
Ah, moi, je viendrai là, par contre, cette fois-ci.
Ah bah oui, vous avez intérêt.
Je suis obligé.
Non, mais hier, je serais dégoûté. Moi, je fais ça en juin et je note les noms de ceux qui viennent pas.
Mais non, mais moi j'ai été puni, j'étais puni de sortir hier soir.
Ah pourquoi?
Ma femme a pas voulu que je sorte.
Pourquoi elle a pas voulu?
Ben c'est ça, moins tu sors et après moins t'as le droit de sortir.
C'est le piège.
Bah ouais, je reprends les choses en main un petit peu là parce que là.
Et jolie votre femme en même temps. Hein. Moi, j'aurais une femme comme ça, je resterais à la maison, hein, franchement.
Oui, écoutez,
Par contre, ta femme était là à 3h du match.
C'était ça le corner.
Émilie m'écrit, faites-moi un coucou en espagnol. Je suis à Barcelone et je vous écoute sur internet. Je vous adore. Alors, je sais pas comment on fait coucou
hola.
En espagnol.
Hola, coucou.
Hola.
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 Hola. Hola. Je croyais que c'était olé, moi, en espagnol, non?
Non, c'est pas pareil.
Olé, faut qu'il y ait un taureau avec un
voilà,
rouge.
Faut qu'il y ait un taureau.
Sinon, ça sert à rien.
C'est quoi la chanson, d'ailleurs, de notre représentant à l'Eurovision samedi soir?
Olé, 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 non?
Ben voilà, olé, olé, voilà. Olé, olé, olé. Vous regarderez l'Eurovision ce samedi soir, Philippe?
Oh, bon, non.
Non, pourquoi?
Non, ben déjà, je trouve que cette chanson-là, elle me plaît pas du tout, là. Non. Ah non, on est ridicule avec
oui,
elle.
Oui, mais enfin.
Mais qui n'est pas ridicule?
Le candidat de la Bosnie.
Qui n'est pas ridicule?
Le candidat de la Bosnie-Herzégovine est formidable.
C'est le, ah, c'est oui. Le blond avec la coupe au bol, là?
Je sais
c'est pas lui? Ah non, il y en a un avec une coupe incroyable.
Mais vous les connaissez tous, ou?
Non, j'ai vu des extraits de 3-4. Oui, oui. Je vais encore passer pour le PD de service, je le sens, là. Quand t'aimes l'Eurovision, c'est qu'il y a un truc. Non, non, il y en a un avec une coupe de cheveux incroyable, c'est peut-être la Bosnie.
Tu dis PD, toi, maintenant.
Ah ouais, il a, mais c'est incroyable, hein. Il a, côté,
il a dit le mot PD alors.
Il a dit PD?
Ouais,
moi, j'ai dit PD?
Ouais, ouais.
Lui, il a le droit.
C'est l'autodérision dans ce cas-là.
Catherine Thierry, bonjour.
Bonjour.
Catherine est à Marignane.
Yorana.
Qu'est-ce qu'il a dit Thierry?
Yorana.
Ah, mais Thierry nous appelle depuis la Polynésie, voilà pourquoi.
Ah, ah oui, d'accord.
Il parle en patois.
Oui.
C'est parlant car ce jour.
Olivier n'est pas là.
Ben il va arriver, il va arriver, Olivier. Et peut-être s'il vous entend, ça va même accélérer son mouvement jusqu'à notre studio. Catherine, d'abord, Marignane, ça c'est près de Marseille, Marignane.
Ah, bien sûr, c'est la même. L'aéroport, Marignane.
Ah bah t'es plus à Vitrolles, Catherine.
Voilà, quoi? Pardon?
T'es plus à Vitrolles, Catherine? T'as changé de...
c'est vrai.
On sent qu'il a fait une grosse tournée.
Enfin, oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine?
Je suis secrétaire dans un bureau d'ingénieur.
Ah, secrétaire dans un bureau d'ingénieur. Il y a combien d'ingénieurs dont vous êtes la secrétaire?
Une vingtaine.
Une vingtaine?
Ah ouais, ouais, c'est moins que Zaya quand même. Hein.
C'est sûr, on fait pas le même boulot. Ouais.
Ah, c'est du boulot, secrétaire pour 20 personnes, dites donc.
Oui, ça va.
Mais vous faites quoi? Vous répondez au téléphone ou...
Voilà, je réponds au téléphone, j'organise leur déplacement, je relis leurs rapports.
Les rendez-vous?
Voilà.
Bon, très bien.
Ça fait longtemps?
Oui, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Mais
oui.
Je suis dans une nouvelle société depuis l'année dernière, là, avec...
Alors, admettons que parmi les ingénieurs, il y a un monsieur Martin. Moi, je vous appelle. Monsieur Martin, il veut absolument parler à personne. Mais moi, je veux absolument parler à monsieur Martin. Alors, comment s'appelle la boîte?
Environ France.
Bonjour, je suis bien chez Environ.
Oui, bonjour.
Bonjour, je voudrais parler à monsieur Martin, s'il vous plaît.
Je suis désolée, il est en réunion pour l'instant.
Oui, je sais, mais c'est assez urgent.
Bah écoutez, je peux prendre un message et lui faire part de ce que vous désirez dès qu'il a terminé.
Non, mais je voudrais lui parler directement.
Ah bah écoutez, alors il faudra rappeler un petit peu plus tard et j'essaierai de vous le passer.
Ah non, mais je voudrais lui parler maintenant.
C'est important.
Là, ça va pas être possible dans l'immédiat.
Ah non, mais tu vas bien passer, monsieur Martin.
Waouh, elle est forte, hein.
Ah non, elle est pas mal.
Elle est bien.
Vous méritez votre job, Catherine.
Bon, merci, ça va. Je ferai les infos par mon chef, alors.
Kenavo, Thierry.
On dit Meteiroa.
Metei. Ça va très bien. Vous êtes où en Polynésie, Thierry?
Alors à Maina, à une demi-heure de Papeete.
Vous êtes à une demi-heure de Papeete. On a bien fait de vous appeler maintenant. Je suis con, hein.
Ah, là, vraiment.
Mais... c'est nul.
En plus. Non.
Si, non. Si je reconnais.
Non.
C'est
non.
C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude.
Mais c'est de.
C'est mon jour préféré le vendredi, moi là.
C'est de la polignaiserie. Vous faites quoi, Maïna, Thierry, à Papeete?
Alors, je suis principal de collège.
Oh merde! Directeur de collège!
Alors, vous imaginez ce genre de remarques au collège?
Oh bah, ça, vous... mais enfin, là, ouais, enfin, sauf que non, évidemment, là-bas.
Ça marche pas.
Ça marche pas, je suis sûr.
Ils s'en foutent, ils iront pas, quoi, ils vont à la plage, non?
Et ils sont sympas, alors, les collégiens polynésiens?
Oui, très sympa.
Vous êtes de là-bas ou vous êtes arrivé là-bas il n'y a pas longtemps?
Non, pas du tout. Je suis de métropole et puis ça fait, j'ai déjà travaillé 4 ans là-bas et je retravaille encore 4 ans à Tahiti. Oui.
Et vous avez une voix jeune, hein ? Vous avez une voix jeune pour le directeur de l'école ?
Eh ben oui, 39 ans.
Et vous croisez parfois Olivier de Kersauzon ?
Ah, ouais, c'est quand même une. Il y a 200 000 habitants hein, en Polynésie, mais on l'a croisé une fois dans les
D'accord, mais il y a peut-être 200 000 habitants, mais il n'y a qu'un Olivier de Kersauzon aussi.
Alors, c'est vrai. On passe quelques fois devant sa maison.
Ah, racontez-nous pendant qu'il n'est pas là. Il est en train d'arriver, on me dit qu'il est dans l'escalier. Elle est comment sa maison ?
Oui, alors je ne prendrai pas le risque quand même, parce qu'il y a peut-être
200 000 habitants. Mais vous êtes loin, vous ne risquez rien là, vous êtes très très loin.
Oui, mais lui revient. Mais lui revient régulièrement.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Vous êtes retrouvable.
Non, il a une très belle maison, et sur Moréa, et voilà. D'accord. On dirait pas plus.
Et il y a beaucoup de vaïnés ?
Ah non, c'est quand même assez protégé. Il est pas fou, Olivier, quand même, hein. Il protège.
Mais il y a des jolies filles qui l'attendent avec des colliers à fleurs.
Comme les Polynésiens sont très accueillants.
Il a des vaïnés
avec des colliers de fleurs.
Thierry, vous souhaitiez la présence d'Olivier de Kersauzon et Europe 1 vous offre Olivier de Kersauzon. Voilà. Parce qu'on est comme ça, Europe 1. Bonjour Olivier.
Yorana, Olivier. Yorana.
Comment vous dites ?
Yorana. Bonjour, Yorana.
Voyez un peu, hein, on prend...
Quel talent. C'est quoi cette combine ?
On a en plus des auditeurs bretons pile au moment où vous arrivez, Olivier, c'est formidable. Et il est en train de nous décrire votre maison là-bas en Polynésie.
Il disait qu'il y avait plein de gonzesses devant.
En pleurs aujourd'hui, ils sont là sur la plage en train.
Là, c'est un mec vachement sérieux, moi.
Ah ouais.
C'est pas le genre, ouais.
mais franchement, attends, vous pouvez le dire, il est là, Thierry. Alors, il y a des jolies gonzesses ou pas là-bas devant la
mer ? Oui, en Polynésie, oui, il y a de belles vaïnées. Il peut le dire aussi bien que moi. Il y a de belles vaïnées.
Moi, j'ai rien à dire.
Mais pas obligatoirement devant chez lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me méfie quand même. Hein. Comme celui qui revient régulièrement.
Vous avez raison. Ouais.
T'as raison de te méfier. Je suis pas une vraie bonne fréquentation, moi.
Oh non, mais on est tellement content de vous revoir.
Et moi, peut-être le printemps a enfin un sens quand je vous vois. Après avoir traîné dans tous les coins du monde, de la Chine à je sais pas où, à ici, j'arrive ici, c'est un moment de fraîcheur.
Ah non, puis il était temps que vous reveniez, parce que je vais vous dire, il faut remettre un peu d'huile dans les rouages.
Ah oui, grippé, hein.
On va mettre des mites.
Ça y est. Alors lui,
sans savoir ce que t'as fait, hein.
Je m'en fous, je me suis échauffé, je l'avais senti venir.
Moi, je suis pas du genre à dénoncer Olivier de Kersauzon, mais tous mes camarades et moi, on tient à vous dire que pendant que vous êtes parti, Michalak, il a pas mal déconné, hein.
Mais pas sur lui.
Il a dit que c'était normal de jeter des bouteilles d'eau sur l'épaule du président de la République.
Et c'est pas grave.
Et depuis, ça fait une polémique, c'est remonté jusqu'à l'Elysée, on a failli tous être virés à cause de Michalak.
En fait, ils veulent m'envoyer en maison de correction, ils disaient que chez toi, ce serait pas mal.
Mais si c'était moi qui t'avais éduqué, tu serais pas où t'en es aujourd'hui. Attends, même en Polynésie, on voit leur espèce d'émission complètement ringarde où ils bouffent de la merde en groupe.
C'est
avec
pas vrai.
Une gonzesse avec des cheveux tellement courts qu'on se demande si elle a pas couché avec les Allemands, en fait. C'est surréaliste leur truc. Attends, on va dire. Et tu vois, et je vois ça, bien, je le montre à mon chien, je dis, tu vois, c'est à toi que j'ai ça.
Et ben voilà, on est heureux de vous retrouver. Catherine, Thierry, on va jouer dans un instant. Attention, les cadeaux ont beaucoup évolué depuis
votre
tour. Parce que Catherine et Thierry vont jouer pour deux nuits à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette.
Magnifique.
Ce sera après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Attention Catherine et Thierry, dans les semaines qui viennent, on verra régulièrement sur LCI Éric Besson, Luc Chatel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande débattre ensemble. Pour quelle raison ? Catherine,
2,
Thierry.
Un débat sur la retraite ?
3. Sur la retraite. Éric Besson, Luc Chatel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande. Non, ce n'est pas sur la retraite.
Sur la.
Titoff est déjà prêt, alors attention, il faut vite y aller, là, encore 5 secondes.
2.
C'est très simple, très facile.
Sur la Coupe du Monde.
Elle a gagné.
Non, c'est
un peu de la Coupe du Monde de pétanque, de handball, on sait pas. Non.
De faire à friser.
non,
Elle a gagné.
Je crois qu'on va accorder la bonne réponse à Thierry parce qu'il a été le premier à dire Coupe du Monde et évidemment
Il y a 40 Coupes du Monde. Et l'autre jour j'étais au Congo, il y avait une Coupe du Monde organisée chez eux de faire un frisé, trucs comme ça. Ben non. C'est pas déconner, c'est la Coupe du Monde de football.
Alors attendez, je me tourne.
Et c'est la jeune femme qui l'a dit qui a gagné.
Je me tourne vers Catherine, on va voir si Catherine est fair play ou si elle pense qu'elle a gagné. Catherine.
Oui.
J'ai gagné. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Lâchez rien, Catherine.
Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? Honnêtement.
Il faut être honnête, ce que ça aurait pu être n'importe quel autre. Ben.
Elle a raison.
Non, c'est ce qu'on va faire. Comme c'est vendredi et que c'est le retour d'Olivier, vous avez gagné tous les deux.
Wow.
Catherine, Thierry, vous partez pour l'hôtel Martinez sur la Riviera, l'ultra luxe, la plage du Martinez, l'eau à 30 degrés dans la piscine extérieure, le spa du les 8 concierges du Martinez.
Clé d'or.
Ouais, avec un nom comme ça, obligé d'avoir 8 concierges. Hein.
J'avais pas pensé à ça, c'est vrai.
Je suis parti à l'hôtel Dos Santos.
L'hôtel Da Silva, il y en a 53, je crois.
Il n'y a pas de perdant. Alors, comme il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de cadeau fête des mères. On offrait pour le perdant une boîte à caresses.
C'est quoi ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il y en a pas. Pour Isabelle Montreau, peut-être, non ?
Ah non, merci.
C'est la marque Kirines qui offre la boîte à caresses.
C'est quoi une boîte à caresses ?
Je sais pas ce que c'est une boîte à caresses. Il y avait la boîte à claques à une époque, maintenant c'est.
Bah ça, je connais bien, ouais. Ah ouais.
Parce que c'est la fête des mères. Faut y penser, là, quand même.
Et vous avez pas regardé ce que c'était que vous étiez en train d'offrir ?
Bah, c'est des produits cosmétiques, des trucs comme ça, non ?
C'est une marque de soins, Kirines, qui offre pour la fête des mères la boîte à caresses. Bon, vous êtes content quand même, l'un et l'autre.
Hein. Oui, génial.
Ah, bah, très, très heureux.
Vous êtes maman, ouais. Catherine ?
Oui, j'ai deux petites filles. Hein.
12 petites
deux.
Filles ?
Non, deux.
C'est bien qu'elle est marseillaise, mais quand même.
Oui, il faut pas exagérer, non plus.
Elles vont vous faire quoi pour la fête des mamans, alors ?
Je sais pas, il y en a une qui a prévu quelque chose à l'école qui m'a dit que c'était pas très beau.
Elle a dit que c'était pas très beau.
C'est mauvais signe.
Elle m'a dit que c'était très beau, donc j'attends de voir ça dimanche. Et la deuxième qui est en train de dormir là, donc qui fait sa sieste. Et qui a 21 mois, donc voilà.
C'est normal, ouais.
Elle est un peu petite pour faire un cadeau, mais...
Et vous Thierry, vous êtes papa ?
Oui, papa d'un petit Maxence. D'ailleurs, à ce propos, Titeuf, Maxence était très vexé parce qu'il est fan de lui. Et puis, il y a 2-3 jours, là, Maxence, un prénom de Maxence, vous êtes bien moqué de lui. Alors, il a dit que maintenant, il attendrait plus 4 ans pour aller voir le nouveau spectacle de Titeuf.
Mais non, c'était pas moi, c'était Jérémy Michalak encore.
Ah non.
Et pour la fête des mamans, vous avez prévu pour votre épouse quelque chose ?
Ah ben, bah, elle est avec moi là, donc j'ai pas trop en dire.
Bon, moi j'ai un disque que j'ai retrouvé pour la fête des mamans. Et je suis sûr que ça va plaire à Olivier. Je sais pas si vous vous souvenez de Roméo. Ça vous dit quelque chose, Roméo ? Écoutez un peu.
Maman, maman.
C'est chouette.
C'est magnifique, c'est moderne.
Ça valait le coup de revenir pour entendre ça.
Ouais. C'est triste,
traverser la planète.
Oh, c'est bien
quand je serai grand.
C'est d'une beauté.
Hein, t'imagines bien au Havre, là, regardé par la fenêtre.
Ah oui.
Ouais.
Hein,
c'est pour toutes les mamans.
Sous la pluie, hein.
Oui. Sa maman qui pleure sous la pluie en bas. Le ciel gris.
Ma maman. Elle a oublié ses clés.
Qui c'est la chanteuse ?
Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura pas d'amour aussi grand.
Roméo, il s'appelle, c'est pas une chanteuse, il s'appelle Roméo.
C'est quoi ? Ah, c'est un chanteur. Hein.
Alors, maintenant, il a 70 ans. Hein,
il s'est quand même pris les couilles dans le tiroir. Hein, quand même, hein.
pouvoir être désagréable avec le Roméo là. Il doit avoir la braguette autant de garni Juliette. Hein, parce que...
Ah maman, maman.
Et c'est très ennuyeux son truc.
On l'appelle Roméo et Couillette.
Ah oui. C'est un truc à détester sa propre mère.
Mais ça date de quand ce truc là?
Respectez un peu la fête des mamans.
Oh,
on adore les
mamans.
C'est dimanche. C'est dimanche.
Vous n'avez pas de cœur parce que ça.
Mais on a de l'oreille. Je sais que... obligé d'avoir ça quand on a une maman, je préfère être orphelin. Moi.
Moi, je sais que tous les enfants qui sont à l'arrière de leur voiture, là, que les mamans sont allées chercher à l'école ce vendredi, ouais. Eh bien, tous les enfants sont là à dire maman, c'est pour toi cette chanson que Laurent Ruquier la passe. Et moi aussi, je t'aime, maman.
Ouais. Et du rap et tous les petits.
Ah oui. Ouais. Ouais. Non, mais par contre, lui, il va rien comprendre. C'est un coup sur ses relevés de sa scène de droit d'auteur. Il va avoir des sous, il va rien comprendre.
J'y pense, on est parvenu sur la question que j'ai posée à Catherine et à Thierry, mais effectivement, Éric Besson, Luc Chatel, Daniel Cohn-Bendit et François Hollande seront invités régulièrement sur LCI pour commenter la Coupe du Monde de football.
C'est des foot, des
Pierre,
foot
de et
foot.
Pierre Ménez, Roland Courbis, tout ça et tout, ils vont aller au gouvernement, pense.
Bah ouais, Thierry Roland, la culture, ça va être chouette. Je l'avais sur mon plat. Il est marrant quand même, Thierry. Vous qui l'avez fréquenté pendant des années.
Oui, il est marrant.
Il est marrant, Thierry Roland.
Il est gentil, il est assez marrant.
Il fait un bouquin sur les 13 Coupes du Monde, 13 Coupes du Monde auxquelles il a participé. Je l'avais sur le plateau, vous le verrez samedi soir. Ouais. Mais c'est un gars plutôt sympathique, ouais, hein, Thierry Roland. Ouais, hein. Il a quand même un peu la trouille parce que, vous avez vu, les Français ont pas si mal joué mercredi. Ouais. Et c'est vrai qu'il s'est engagé, Thierry, avec une marque de téléviseur à rembourser les Français qui ont acheté cette marque et ce nouveau téléviseur si jamais les Français gagnent le mondial. Alors maintenant, il prie.
c'est que si jamais on va demi-finale ou quoi, tout le monde va se précipiter pour acheter une télé surtout.
C'est terrible si cette marque doit rembourser tous les téléviseurs aux gens qui l'ont acheté parce que la France gagne la Coupe du Monde. Bon, il dit qu'il y a peu de chance.
Il espère surtout qu'il y a peu de
chance. Si tous les gens qui ont critiqué Domenech doivent s'excuser aussi, ça va faire du boulot.
Ah oui, ça va faire du boulot. Ouais. Ah, vous n'y croyez pas aux chances des Bleus?
Non. De toute façon, moi, le foot, ça m'emmerde.
Oh. Ah, c'est bien que tu sois revenu.
Qu'est-ce que... Ouais, mais les gonzesses encore plus. Qu'est-ce que vous allez faire alors pendant toute cette Coupe du Monde en Afrique du Sud alors? Parce que moi je pars avec Benichou, je pourrais vous emmener aussi. Si
non, non, bah allez-y. Benichou, vous craignez rien pour vos gonzesses, vous pouvez partir.
On en trouvera là-bas.
Oh, il revient en forme, lui.
Oh, tiens, d'ailleurs, Alphonse, il paraît que vous avez fréquenté la même école qu'Olivier de Kersauzon. C'est un auditeur qui s'appelle Sébastien.
J'en ai fait 11, moi, donc c'est fastoche. Hein.
Olivier de Kersauzon et Philippe Alphonse savent-ils qu'ils ont fréquenté la même école, comme le Premier ministre François Fillon, l'institution Saint-Michel des Perrets.
Ah, oh, c'est vrai, tiens.
Ah, ouais. Ah, les petits bourges,
c'était en école de curé là-bas
Ça joue les costauds, c'était en école de curé, regarde-moi ça.
Bah oui, j'ai été dans une école de curé. C'est tellement mauvais voyou, qu'on ça. M'a foutu dans l'école de curé.
C'est quoi? Je vais te laisser ma place au milieu. Et vas-y. Si tu veux lui péter la gueule, vas-y.
C'était dans un beau château. En quand même parle l'autre princesse là.
Ouais, hein? Ça joue les grandes gueules, c'est des petites
chiottes. Elle a fait une coupe de cheveux, la mignonne. Ouais. On dirait un réveil qui a explosé. Avec tous les ressorts qui se barrent de tous les côtés. Attends, moi je suis une victime de la société, moi. J'ai été traîné dans les collèges. C'est pas moi qui suis allé de mon plein gré. Voilà.
C'est le vice-président de l'association des anciens habitants de la région parisienne qui vous contacte pour que vous adhériez tous les deux à cette association des anciens élèves.
Quelle année, toi?
62, par là.
De 50 à 62.
Non, je suis pas resté longtemps. Je suis
en 6e.
Ils m'en viraient au bout d'un mois, moi.
Ah ouais?
Ça se trouve, c'était un mois seulement.
J'ai balancé un banc. Il y
y avait un grand escalier magistral.
Ah, oh, génial, oui.
Et il y avait un curé qui me faisait chier. Voilà. Et l'escalier, il faisait une belle cour comme ça. Il y avait un banc au-dessus de l'escalier. Il montait l'escalier, je l'ai balancé le banc sur la gueule.
Des trucs de gamin, ça.
C'est mieux. C'est mieux que la bouteille, hein.
Bravo. Ce qui a fait qu'ils m'ont pas gardé, quoi.
Ah bon, c'est bizarre, je trouve.
Fabrice.
Parce qu'Alfonsi s'est fait pendant 6 ans, lui. Il a resté.
Et moi, je peux pas la faire de putain.
Non, mais enfin.
C'est, tu sais, ça hérite particulièrement.
Non, mais allez.
Ça hérite particulièrement l'amiral, ce genre de mal.
T'as vu comment il t'a parlé?
Bah ouais, mais il parle, voilà, mais c'est parce qu'il est loin, t'as vu, il est de l'autre côté de la table. Hein, s'il était à côté, ça, il n'aurait pas parlé comme ça.
En plus, c'est quand même pas gentil, 6 ans.
Fabrice, dans quel genre de collège vous êtes allé, vous?
Exactement les mêmes.
Ah, c'est vrai, vous êtes allé chez les curés aussi?
Ouais, j'étais à Saint-Michel-le-Picpus.
C'est pour ça que tu étais au courant pour Philippe Alfonsi, alors.
Saint-Michel-de-Picpus. Ouais, et vous étiez bon élève, Fabrice?
Ah non, j'étais bien aussi, moi.
Ah, pourquoi? Que vous avez fait?
Il avait encore curé.
Non, mais sérieusement.
J'avais fait un pari, j'avais réuni de l'argent en fait avec les autres élèves, j'avais acheté des souris quai de la Mugisserie, que j'avais fait un grand lâcher dans les couloirs de l'école.
Un lâcher de souris.
Et on imagine au coin du couloir comme ça.
Allez, une petite question quand même, revenons à l'actualité dans l'hebdomadaire Le Point. On note le point commun, justement, qu'il peut y avoir entre les chanteuses du groupe Coco Rosy, les mannequins du dernier défilé de Vivienne Westwood et une candidate de la Nouvelle Star. Il paraît que c'est un phénomène apparu il y a 2-3 ans, phénomène qui s'amplifie. Quel est ce point commun?
C'est physique?
C'est physique.
C'est vestimentaire.
C'est anorexique.
Elles sont travesties?
C'est plutôt accessoire.
Elles ont un doudou?
Non, pas
elles
un doudou.
Elles sont travesties.
C'est-à-dire quoi, travesties?
Travesties, en fait, c'est des mecs habillés en
fait. Ah non.
Non, elles ont des tatouages.
Non, ce sont des femmes, les mannequins du défilé de Vivienne Westwood. Les filles chanteuses de Coco Rosy aussi sont des femmes. La candidate de la Nouvelle Star en question, c'est aussi une femme. Et elles ont tout un point commun. Et c'est vrai que c'est un accessoire de plus en plus
présent. Elles sont tatouées.
Pas tatouées.
C'est un truc qui s'accroche, percé.
Un piercing.
Elles font des moustaches.
Elles se font moustaches. Bonne réponse de Titoff. Exactement.
Pourquoi elles
sont c'est moderne, hein. Toutes les mamans portugaises en ont.
C'est devenu une mode. Les beautés à moustaches.
Ah ouais, c'est vachement beau.
Les femmes maintenant se dessinent des petites moustaches. C'est un phénomène depuis. Comment ça, c'est bizarre?
C'est bizarre, oui.
Mais non, c'est plutôt rigolo. C'est pas si moche.
Ouais, c'est tendance au monde à lui, c'est normal. Des gonzesses à moustaches, des mecs sans bite et tout. C'est le monde merveilleux de Tonton Ruquier. C'est pour ça qu'il va aller voir. Il va aller voir le foot avec Benichou.
Elles font peur.
Non, mais elles font pas peur. Elles sont très jolies. Oh, franchement, Olivier.
Elles sont dégueulasses.
Ça va, Philippe. Fais pas si t'aimes pas, quoi. Ça va. Ouais, ouais.
J'aime bien les gonzesses. C'est quand même du gâchis.
Non, mais Luce, à la Nouvelle Star, c'était plutôt rigolo quand elle est arrivée. Lors du casting, tout ça, c'était bien décalé, c'est drôle, franchement.
Enfin, vous habituez à ce monde moderne, hein, Olivier.
C'est sûr.
Alors, on peut avoir un petit coup de la romance de la fête des mères, là, pour être sûr qu'on est vivant.
Non, parce que, par exemple, si on n'avait pas vu l'émission Dilemme qui passe en ce moment tous les soirs sur le câble, Joujou, vous l'avez regardé, cette émission?
Ah, j'ai vu un bout hier soir. Et ils ont proposé un dilemme monstrueux, en fait. Ils leur proposent donc d'accepter des défis en échange d'argent. Donc,
c'est des candidats d'une émission de télé-réalité. Ils sont dans quoi? Dans un loft. Dans un loft.
C'est une baraque, pareil. C'est la même chose.
Et alors, on leur propose de l'argent contre des défis, c'est ça?
C'est ça. Et hier, il y a un mec à qui ils ont proposé le défi suivant. C'était: est-ce que tu acceptes d'empocher 5000 euros en échange que ta mère débarque à poil dans la maison?
Que qui?
Que sa mère débarque toute nue dans la baraque.
Et alors, t'as accepté?
Bien sûr. J'ai dit oui tout de suite.
Et le candidat,
il a accepté.
Et la mère?
Et tu vois sa mère qui se dessable sur le plateau et puis qui va rentrer en petite culotte dans le truc.
Non, vous savez, les choses évoluent vite en France.
La mère, elle est d'accord.
Mais la mère.
Ah oui, elle est d'accord, la mère. Si
elle c'est sur la musique, toi, maman.
Bonne fête, maman.
C'est vachement bien, on s'en regarde pas.
Non, je trouve que Alexia Laroche-Joubert fait vachement progresser la télévision française.
Là, c'est terrible.
Il y avait d'autres défis pour 10 000 euros. Seriez-vous prêt à vous raser la tête, par exemple, Fabrice? Vous le feriez, vous, pour 10 000 euros?
Je fais même pas ce jeu, moi.
Non, faites pas ça.
Moi, pour 500, je vous rase la vôtre.
Pour 6000 euros, accepteriez-vous de faire rentrer votre mère nue ou quasiment nue?
À 6000 euros.
À 6000 euros.
Ah oui, ah, tu avais dit 5000. Ah oui,
vous avez pas compté la TVA. Pour 6000 euros, faites rentrer votre mère nue dans une pièce?
Bah, bien sûr.
Ah ouais. Ouais.
Et elle? Elle est d'accord?
Ça, c'est un problème.
Et pour votre maman, vous, je sais pas, si vous avez encore votre maman, vous accepteriez que votre maman arrive toute nue? Non, non. Hein.
Et ta fille?
Je sais pas, faut lui demander.
Ta fille, elle le fait. Hein.
Et toi? Et toi?
Et pour beaucoup moins.
Et toi, tu serais prête à faire l'émission en nu?
Non.
Pour 6000 euros? Pour 6000 euros, elle l'a fait habiller. Mais donc je vois pas pourquoi elle l'a fait nue.
J'aimerais bien ça.
Ah, c'est pas ça, oui, je me trompe de 2-0.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, évidemment. Mais à ses côtés aujourd'hui, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau, Philippe Alfoncier. Le retour d'Olivier de Kersauzon.
Europe 1, On va se gêner. La question, citation.
Qui a dit quoi?
Quoi?
Qui a dit Massimo Gardia, c'est l'otari de la jet set. Il est méchant comme un peigne, gras comme une vache. Il a couché avec Sagan, il aurait mieux fait de la lire.
C'est beau, ça.
Je trouve que c'est assez chouette.
C'est pas mal.
C'est une vraie langue de pute, ça, mais c'est génial.
C'est quelqu'un de méchant,
Sagan,
mais qui a du humour.
C'est quelqu'un qui a dit ça.
C'est pas une femme qui a dit ça, non. Et c'est quelqu'un dont, on va dire, les meilleurs papiers sont publiés chez Fayard. Et
Patrick Besson.
Patrick Besson, voilà. Excellente réponse, Isabelle Mosseau.
Ça peut être que lui. Style, hein.
Ah non, c'est assez drôle. Là.
C'est drôle.
Bon, alors, je préfère pas lire ce qu'il écrit sur moi. C'est pas dans l'extrait choisi dans la presse, mais j'imagine qu'on y a le droit. Tous ceux qui passent à la télé y ont le droit. Mais c'est de toute façon très, très, très drôle.
Moi, je trouve pas qu'on puisse écrire quelque chose de désagréable sur vous.
Ah.
Et si en plus, et je trouverais pas ça drôle.
Non, mais voilà. C'est gentil de me défendre.
Non, moi, si
Olivier.
Besson, il s'est permis ça, il lui pétait sa petite tronche, lui.
Non, ils sont.
D'intellectuel de sixième catégorie, pour qu'il se prend l'autre tarlou.
Il s'en prend aussi à William Lémergie. Il dit ça, c'est le drame du type qui s'est levé trop tôt, trop longtemps, qu'on voit chaque matin à la télévision. Ariel Wiesman, un sémaphore dont la parole sautille maladroitement autour du vide.
Waouh!
Et moi, vous me donnez une bouteille de rouge, je vous fais le bouquin, dans l'après-midi. La bouteille de rouge, c'est pas pour moi, c'est pour vous.
Ça pourrait être du Kersauzon, d'ailleurs.
Hein. Ah, ça pourrait être du Kersauzon.
Ouais, moi, c'est un peu plus fin que ça. Je te... tu vas me parler meilleur, toi? C'est parce que tu t'es fait rouge pendant 6 ans. Ah,
c'est bien, c'est un peu plus fin. Moi, ça n'aurait jamais passé 6 ans chez les Turets, mon cher Olivier.
Il dit aussi, ça c'est pas faux, hein, c'est une vraie réflexion. Je ne comprends jamais pourquoi tous les films, ou presque tous les films, durent 1h30. C'est aussi bête que si tous les romans faisaient 200 pages. C'est pas faux ça quand même, quand on réfléchit bien.
Bah oui, mais enfin, c'est pour convenir à la télé. Hein.
Vous n'aimez pas Patrick Besson?
Non, j'aime pas ce qu'il a dit sur Massimo.
Massimo Gardia.
Gardia, ouais.
Ah, parce que vous le connaissez, Massimo Gardia, vous avez
non,
été un
pas
peu.
Envie de le connaître, mais...
Vous avez été un peu gigolo en même temps que lui à la même époque.
Non, je t'en prie, tu vas me parler meilleur. Tu vas te retrouver gigole pincé, ça va te faire mal au fion. C'est pas ça le fond de l'opération, c'est que il est tellement immonde, ce Massimo, c'est odieux de l'attaquer, c'est trop, quoi.
Ah oui, oui, faut pas tirer sur une ambulance, c'est ce que vous voulez dire.
C'est même pas une ambulance, c'est une flaque.
Alors, il y a un autre papier de Patrick Besson, hein, parce que il écrit dans Le Point chaque semaine sur le dossier des retraites. Hein, on en parle beaucoup, évidemment, des retraites en ce moment.
Vous êtes la retraite de Russie. Ouais.
Non, mais la retraite à 60 ans. Lui, il parle de la retraite, pourquoi pas, à 80 ans, Patrick Besson. Et alors, il décrit ce que ça donnerait. Il dit, quand José Gomez, 78 ans et demi, entreprit l'ascension de la plus haute grue du chantier, André Durafour, son contremaître de 79 ans, eut une appréhension. Ce serait trop bête s'il y a un an et demi de la retraite, José était victime d'un accident de travail. André connaissait les problèmes de santé du grutier. Après une hernie discale qui avait tenu celui-ci éloigné du chantier tout l'hiver, il s'était plaint d'un rhumatisme articulaire quelques jours après son retour au travail. Il avait en outre des problèmes de vue. Il avait perdu l'usage de son œil gauche à la suite d'une partie de pétanque où son partenaire, jeune retraité de 84 ans, avait confondu sa tête avec le cochonnet. De surcroît, son œil droit faiblissait chaque jour. Voilà ce que ça donne. Et il montre un peu ce que pourrait devenir un pays où on travaillait jusqu'à 80.
Les acteurs de cul ou pas?
Pourquoi?
J'imagine Rocco à 78 ans qui arrive plus.
Avec du Viagra, il peut y arriver, Rocco, encore.
Il n'aura plus qu'un petit bout de peau qui sent le pipi, mais pourra le mettre dans l'amidon. Hein.
Oh non!
Tu vois que c'est plus fin que Patrick Besson, tu vois.
C'est joli.
La retraite à 60, 62, 63, 65, vous préconisez quoi, Philippe?
Oh bah alors
méfiez-vous,
là,
je peux en tenir des conséquences.
Non, mais alors, franchement, alors là, c'est, non, ça dépend de si vous avez un boulot dur ou pas dur, c'est tout. C'est, ouais. Et c'est à quel âge vous avez commencé aussi. C'est ça qui est scandaleux. Il y a des gens qui commencent à bosser à 14, 15 ans. Ouais. On va pas les faire travailler jusqu'à 70 ans.
Bah, au contraire, s'ils ont commencé à 15 ans, ils savent faire que ça. C'est vrai. Qu'ils prennent des loisirs, les mecs n'ont jamais pris de loisirs, tu leur enlèves le boulot, ils craquent, ils meurent.
Faut faire bosser de les gens allaient mourir au travail.
De voilà. 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 Mourir au travail.
Mourir au travail.
Ça, c'est
comme
beau.
Molière.
Mourir au travail.
Et Dalida.
Et Dalida.
Et chaque journée, l'usine jetterait les travailleurs morts dans une grande benne. Et on boirait le truc pour nourrir les chiens du quartier dans une ambiance d'économie de guerre, quoi.
Ah, les chiens, ouais. ou pas les chiens.
Et puis on en récolterait des belles pantoufles à la sortie de la benne.
Voilà un beau projet, une belle réforme des retraites.
Ouais, je trouve que c'est pas mal, ça.
Yannick Noah chante Angela, c'est son nouveau single.
Mais il a quel âge?
Yannick Noah?
Il n'a pas 60 ans, Yannick Noah?
Écoutez, en tout cas, il a à peu près l'âge de Marie-Myriam, c'est la dernière fois qu'on a gagné. Depuis 1925, c'est arrivé une seule fois, le 30 mai 2000.
C'est
quoi donc?
Coupe d'Europe en France.
Non, du tout. Mais c'est lié évidemment à l'actualité, vous l'avez compris, puisque c'est le principe même.
C'est lié à Roland Garros.
De notre jeu si amusant.
Ah oui.
Est-ce que c'est
parfait,
un événement sportif?
Pardon.
Un événement sportif.
C'est lié à un événement
sportif. C'est Roland Garros.
C'est lié à Roland Garros.
C'est le nombre de Français éliminés.
Non.
C'est le nombre de Français en finale.
Non plus.
Je pense qu'il y a un rapport avec la pluie.
Oui. Ouais. Alors allez-y.
J'en sais rien, mais peut-être que.
Il y a beaucoup plu.
C'est arrivé qu'une seule fois qu'il y ait une journée où on ne puisse pas du tout jouer à cause de la pluie.
Excellente réponse de Joujou. Il est parfait. Ah non, vraiment. Ben parce qu'on entend pas mal de gens protester en ce moment sur le fait qu'il serait quand même temps de mettre un toit amovible au-dessus de Roland-Garros comme à Wimbledon parce qu'il y a pas mal de matchs qui sont ou reportés ou interrompus à cause de la pluie, mais quand même on nous rappelle aujourd'hui dans les journaux que c'est au final quand même depuis 1925, c'est arrivé qu'une seule fois qu'il y a eu une journée entière annulée à cause de la pluie. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un toit pour ça?
Enfin, moi, j'étais il y a 2-3 jours.
Vous étiez à Roland Garros?
Oui, j'ai eu 10 minutes de tennis.
Pourquoi vous êtes arrivé à la fin du match?
Non, pour ce genre d'événement, en général, j'arrive même en avance. Mais il y avait 10 minutes, j'ai vu un quart d'heure de tennis.
Pourquoi la pluie est...
Parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir, tout ça.
C'était quoi le match?
À mon avis, chaque année, les organisateurs, ils se disent, on met le toit, on le met pas. Ils disent, non, ça va, l'année prochaine, il va faire beau. Ils y croient, quoi. Ils sont optimistes. Ils pensent qu'un jour, il va pas pleuvoir au mois de mai.
Non, mais on pourrait le faire en Afrique, par exemple.
Le tournoi?
Ouais.
Pourquoi?
Ouais, comme ça, tous les joueurs français, mon fils, tout ça, de son gars jouera à domicile, en plus.
Non, Fabrice Eboué, pas vous quand même.
Ah, c'est-à-dire que même dans le tennis, maintenant, il n'y a plus que des noirs, forcément, de le constater. C'est pourtant un sport bourgeois où on conservait quand même une élite blanche. Je suis désolé pour vous, mais là, vous avez vraiment plus rien. Quoi. Il y aura le ping-pong, je crois.
En tout cas, voilà, Roland Garros ne sera pas gagné par Gaël. Mon fils, il a été éliminé depuis.
J'ai pas vu parce qu'après, il était 10h du soir, je suis rentré quoi. Quand
t'étais avec Benichou ou ça ou quoi?
Non.
Que le sport, ça se fait avec Benichou, il paraît.
Oh, vous n'avez pas de jaloux de Pierre, Olivier?
Attends, je
vous sortirai moi aussi si vous voulez.
Non, je tiens pas du tout.
Tu vas découvrir.
Il est content en plus, parce que vraiment, il a parlé de toi toute la semaine. Il t'attend avec impatience.
Pierre, là, il se disait, mais quand est-ce qu'il revient, Olivier? Il a eu son passage à vide. Vous avez loupé ça. Il y a eu un petit moment de dépression. Quand vous êtes parti,
c'était même un passage sous vide, carrément.
Il était pas bien.
Et puis, il est revenu en forme depuis une semaine à peu près, jusqu'à ce qu'il apprenne que vous reveniez. Mais vous verrez la semaine prochaine, vous verrez. Il est maintenant en tenue entière de supporter, tout en bleu et en jogging. Et il a pris ses billets pour l'Afrique du Sud.
Ça doit bien lui aller,
C'est beau parce qu'il met le jogging avec des mocassins, c'est magnifique.
On dirait Fidel Castro.
Il doit faire son voyage en Afrique du Sud, alors.
Ben oui. Vous êtes bien allé à Shanghai, vous, pour l'exposition universelle. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de voyager, quand même.
Shanghai pour me marrer, d'abord.
Ah oui, c'était bien, alors.
C'est vachement bien.
Parce que je me demandais vraiment quelle était la raison précise pour laquelle vous étiez là-bas à l'exposition universelle.
Non, j'étais à Shanghai et il y avait aussi l'exposition universelle.
Ah.
Il y avait deux événements à Shanghai.
Mais pourquoi? C'est pour rencontrer des jolies chinoises?
Non, mais moi je connais des gens à Shanghai, c'est tout. La Chine, c'est intéressant.
Mais donnez-moi des noms des gens que vous connaissez à Shanghai.
Ben, vous parlez pas le chinois, ça vous servira à quoi?
Ben oui, mais j'aime bien apprendre, moi.
Vous allez rien apprendre du tout. De toute façon, je donnerai pas le nom des gens que je connais à Shanghai à un mec qui va en survette bleu avec bénichou en Afrique du Sud. Pas une casquette à la pépé aussi. Des sacs de plastique avec des protège-couilles. Hein.
Les deux en bleu.
Il y avait leur gueule de retraité et tout ça.
Je trouve coquet, je trouve circoncis là-bas.
Ça va bien. Hein.
Et je suis sûr qu'en plus, pour le retour de l'amiral, le beau Pedro nous écoute aujourd'hui.
Je suis sûr. Mais alors là, c'est sûr que Pierre nous écoute aujourd'hui.
Oui, il doit faire des tours de rond-point dans sa voiture, dans sa petite voiture.
Et croyez-moi, vous, là, le schtroumpf noir, vous allez...
Il va payer.
Ah bah vous...
Le schtroumpf noir, c'est Gargamel.
Vous, il n'y a rien à ajouter derrière schtroumpf. Dans un instant, après les schtroumpfs, la deuxième partie de notre schtroumpf.
Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon. Le retour d'Olivier parmi nous, et voyez, les choses n'ont pas changé. On a des auditeurs qui appellent, qui aiment jouer. Marianne, Bruno, par exemple, c'est leur cas. Ils rêvent, eux aussi, d'aller à l'hôtel Martinez à Cannes, passer deux nuits dans ce célèbre palace au panorama magnifique, époustouflant, magnifique, sur la baie de Cannes.
Historique.
Oui, tu aimes jouer, Bruno, hein.
Vous en rêvez, Marianne et Bruno.
Ah, Marianne.
Et vous aimez jouer, hein.
Marianne est à Toulouse, il faut vous dire. Bonjour, Marianne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Olivier, qui n'avait pas posé cette question depuis très longtemps, s'interrogeait et me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Marianne?
Alors, je suis étudiante en troisième année de classe préparatoire au concours de l'École Normale Supérieure de Lyon.
Ah oui, ouais, pour devenir quoi?
J'aimerais bien soit journaliste, soit interprète de conférence, en fait.
Vous nous écoutez?
Un peu de tapin entre-temps.
C'est ça,
Fabrice.
Ça devient un petit peu trop, cette émission.
Il faut bien financer.
Entre ça, l'autre qui soutient les jeteurs de bouteilles d'eau, moi je vais arrêter. Je pense.
Ouais, c'est vrai, Fabrice.
Non, on va trop loin. Ouais. Trop loin.
Non, mais surtout, tu avais un job, quoi. Et puis là, tu vois, tout le monde veut faire le même boulot que toi, quoi.
Je vais dans des émissions plus courtoises. Ouais.
Par exemple.
Radio Courtoisie.
Allô? Allô, bonjour, c'est Fabrice Eboué. Voilà, je voudrais travailler chez vous.
Vous nous écoutez tous les jours, Marianne?
Ben, quand je peux, oui, quand j'ai pas à cours, oui.
Il commence des blagues sans avoir la chute. Oui, il dit, j'attends peut-être en cours.
Ouais, j'ai appris ça d'un monsieur qui est sur Europe 1. Il s'appelle Pierre Bénichou. Pour démarrer,
c'est comme si tu disais, c'est deux Belges et un Américain. Voilà.
Tu vois, ça a été drôle là, tu vois.
Bruno est en Lettonie. Pourquoi vous êtes puni, Bruno?
Non, c'est absolument magnifique.
Ben, c'est pas moi qui allais le faire. Hein. Je suis allé à Riga avec Isabelle Mergault pour commenter l'Eurovision. À chaque fois, j'en parle, mais c'est vrai, on a passé deux jours avec Isabelle là-bas à Riga. Quel souvenir!
Enfin, vous étiez là-bas pour travailler et vous y étiez le pire jour.
Ah, c'est vrai? Pourquoi?
Bah parce que c'est plein de monde, tout est plein, tout le monde est sous. Non, l'Eurovision, c'est le jour où il ne fallait pas aller à Riga, c'est le jour de l'Eurovision.
Bon, et vous alors, vous y êtes pas pour travailler, Bruno, à Riga?
Si, et justement, moi j'ai une agence de voyage et donc je fais venir des Français, des Espagnols, des Anglais.
Marianne, Bruno, attention, il va falloir me dire, avant les six chroniqueurs ici présents, pourquoi Hardy, qui est indonésien, à la fois amuse et inquiète tous ceux qui le voient depuis hier sur...
Parce qu'il fume. Il fume et il a 2 ans.
Ben ouais.
Ça. Il fume et il a 2 ans. Bonne réponse, que Bruno. Vous
l'avez vu? Qu'est-ce qu'il y a? Total, la musique et tout.
Il est hystérique, Bruno.
Et à part ça, il s'emmerde pas, Riga.
Ouais, c'est ça.
Ah non, il nous écoute.
Ouais.
Parce que c'est vous, alors.
Un mec,
Bruno,
qui nous écoute à Riga, il a quand même fait faire chier sévère.
Wouh! Bruno, vous passerez un séjour de deux nuits à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultra-luxe sur la rivière. Imaginez-vous, Bruno, déjà au Martinez, palace art déco, construit à la fin des années 20, face à la mer. Au loin, Olivier de Kersauzon qui vous fera des petits signes. Car l'hôtel, il faut le dire, bénéficie d'un panorama époustouflant sur la baie de Cannes. Vous pourrez vous détendre dans la piscine extérieure, chauffée à 30 degrés toute l'année. Des top modèles laitons vous attendront. Au spa du 7e étage, des gros moustachus. Oui, il y en a pour tous les goûts à l'hôtel Martinez. The plage privée de Cannes, le must du festival. Pour vous servir, pas moins de 8 concierges, tous avec des clés d'or. Sans oublier, bien sûr, que vous pourrez bénéficier de 2 couverts au restaurant Le Relais. Le grand chef Christian Sinicropi vous attend. Il a régalé tout le jury de Cannes pendant toute la durée du festival.
Et il t'a gardé les restes.
Vous allez rêver grâce à Monsieur Martinez et Mme Martinez pour séjour à Cannes. C'est vrai, là, je vous ai fait la totale, Bruno. Hein. Je peux pas
la
faire...
totale. Juste une chose, vous avez dit que c'était art déco. Vous êtes sûr que c'est pas art nouveau?
Écoutez, vous n'êtes pas.
C'est la capitale de l'art nouveau. Ouais. Donc je connais. Ah. Mais années 20, c'est pas art déco. L'art déco, c'est le formidable.
Vous venez de perdre votre séjour à Cannes. On vous embrasse, Bruno et Marianne. Ouais. Merci, bravo. Merci. Juste une chose, quand même, Tito, vous avez vu ces images, parce que je sais que vous regardez le journal décalé de télé.
Et alors, le gamin qui fume.
C'est là où j'ai vu le gamin qui fumait hier. C'est assez incroyable. Il y a 2 ans, le gamin.
Mais j'ai pas vu sur, j'ai vu sur le net.
Il fume 40 cigarettes par jour.
40 clopes par jour à l'âge de 2 ans.
Au moins, c'est pas du tabagisme passif pour une fois.
Voilà au moins quelqu'un qui prépare sa retraite dès maintenant.
Et il fait des ronds de fumée.
Ouais, mais il sait pas lire, il peut pas voir les préventions sur les paquets aussi. C'est peut-être pour ça.
Il a pas lu que fumer tue, évidemment. Il est originaire de l'île de Sumatra, en Indonésie. Il fume donc 40, n'exagérons rien. 40 cigarettes. Ah bon, ça va alors. Ah ouais. 40 cigarettes par jour.
Ouais, mais c'est des lights.
Mais comment il fait pour en acheter? Parce que...
Ah bah, c'est ses parents, hein. Parce qu'en fait, il est tellement.
Mais 40 cigarettes par jour, c'est quand il boit pas d'alcool, hein. Parce que c'est...
Non, mais ses parents ne peuvent pas.
Ils sont pauvres, ils sont obligés de faire des pipes pour payer les cigarettes du petit, quel drame.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils ne peuvent pas lui enlever les cigarettes parce qu'il est dépendant. Est devenu dépendant.
Puis il est vachement fort. À 2 ans, un môme, ça déplace 600 kilos d'un coup d'une cyclone.
Mais il y trouve comment? Il faut bien les payer.
Nous allons enquêter sur les parents et sur l'entourage de l'enfant. Leur comportement ne paraît pas favorable. Ce que j'aime bien, c'est ce que dit le responsable du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance là-bas en Indonésie, qui dit leur comportement ne paraît pas favorable à son développement. C'est-à-dire qu'ils en sont pas sûrs.
Non, mais
faut
surtout,
qu'ils enquêtent.
Sa préférée, c'est la cigarette après le biberon. Surtout.
Ça, c'est mignon, j'imagine.
Ouais. Et puis surtout, souvent, les bodys, moi je vois les bodys de ma fille, il n'y a pas la poche pour mettre le paquet. Je
sais pas si vous avez vu la photo du gosse, je vous la fais passer.
Il est énorme.
Ah oui, il est très
il fume pour maigrir, peut-être, tout simplement.
Et oui, il peut pas arrêter parce qu'il a peur de grossir. Oui,
c'est ça. Il commence la cocaïne la semaine prochaine.
Nous reviendrons à la culture et à d'autres questions après la pub. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Sébouet?
Il vient d'en sortir une bonne.
Il y a 15 ans.
Et qu'est-ce qu'il a dit, Olivier?
Non, il se demandait s'il a le droit de fumer à la crèche ou si c'est un lieu non fumeur ou pas.
En Indonésie, manifestement, les lois ne sont pas aussi difficiles et dures que chez nous.
Disait, voilà.
Voilà, c'est ça. J'allais vous interroger sur le chanteur d'opéra sud-africain Sifiwo Ntchebe. Sifiwo Ntchebe, c'est son nom, à 34 ans. Et il devait chanter pour le match d'ouverture du 11 juin de la Coupe du Monde, là-bas en Afrique du Sud. Ouais. Et finalement, il ne chantera pas. Pourquoi?
Il a été remplacé par quelqu'un.
Il va être remplacé.
Il est malade, il est pas bien, il est pas en forme.
Non, ça c'est sûr.
Il est next.
Il est mort.
Il est mort. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Oh, c'est con.
Ça c'est quand même pas de bol. Le mec doit chanter pour la cérémonie d'ouverture du 11
juin. C'est pas de bol pour qui d'ailleurs?
Bah, je sais pas, il chante peut-être bien.
Mais il est mort de quoi?
Je sais pas. 34 ans, c'est jeune. Hein. Okay. Il avait commencé à fumer à 6 mois. Vous vouliez rendre hommage justement à propos de disparu à Georges Chétochine, Philippe.
Enfin, je voulais rendre hommage, oui, parce que d'abord Georges Chétochine.
D'abord, il n'y a pas 10 000 morts cette semaine.
Voilà, d'abord. Célèbre. Le pauvre, ouais. Non, mais Georges Chétochine, vous le connaissez certainement. Bien peut-être sûr. Pas de nom, parce que c'est un peu difficile de se souvenir de ce nom-là, mais de visage, c'est certainement. Hein.
Il est mort à l'âge de 72 ans.
73. Et c'était.
Ah oui, quand t'as posé sur
on a pas le même dossier.
Vous êtes sûr de ça?
Ouais, absolument.
T'as vu
oui.
Le ton surtout sur qu'il dit ça.
Alors, c'était ce monsieur à cheveux blancs avec l'œil malicieux derrière ses lunettes de prof là, qui est régulièrement venait dans l'émission. Il n'y a pas photo de
Bataille des Fontaines. Autant vous dire.
Et plus récemment d'ailleurs, ça c'était à la fin des années 90. Et puis plus récemment dans l'émission de Morandini sur Direct 8 et qui décryptait comme ça les comportements des gens du showbiz, enfin des people quoi.
En fonction, non mais moi je trouvais ça grotesque, c'est-à-dire qu'en fonction des gestes ou de ce qu'on faisait avec les mains,
ça voulait dire quelque chose.
Voilà. Pourquoi c'est comme chanteur, un mentaliste. Genre par exemple, s'il est comme ça, ça veut vraiment dire qu'il est mort chez Toshina.
Non, s'il est bien raide par terre, ça veut dire qu'il est mort.
Non mais c'était con franchement.
Mais attendez,
c'était vachement bien.
Ah ouais.
Et non mais enfin pourquoi tel
en plus le comportement c'est très significatif les gestes mais je comprends que vous aimiez pas ça parce que si on analysait vos gestes vous,
voilà ouais
vous sachiez non
voilà pourquoi Laurent saute sur sa chaise en parlant
attends là, il a fait un truc fait un geste là avec son doigt qui est assez
ah oui là il a un comportement
agressif en plus ça c'est drôle
il a un comportement non il a un comportement à risque là je trouve
je supportais pas qu'on analyse vos gestes
il était gentil monsieur Chétochine
voilà. Il faisait un peu le clown. Non, non, attendez, c'est pire que ça. Parce que c'est vrai que c'est un vrai prof. Hein.
Ah oui.
Il a été 20 ans professeur de marketing là, à l'université.
Bah, il avait trouvé de quoi occuper sa retraite alors.
Ah non, pas du tout. C'était pas sa retraite. C'était beaucoup plus malin que ça. Il est venu faire le malin à la télévision le jour où il achetait sa toge de professeur là, de Dauphine Paris 9. Et il a monté un cabinet de consultant. Quoi. Voilà. Et à partir de là, il fallait qu'il sorte de l'anonymat universitaire et venu à la télé. Pas con.
On dit quoi. Il était comportementaliste malin. En fait.
Ouais. Non, c'était un spécialiste du marketing qui est passé de la théorie du marketing classique, là vous savez les 3 P, la prix, promotion, je sais pas quoi, à justement une étude du comportement.
Voilà, ah oui.
Il est devenu,
très intéressant. Mmh.
Oui. Et c'est-à-dire que c'est lui qui vous disait quand quelqu'un fait beaucoup de gestes comme ça qu'il est sourd-muet.
Voilà. Ouais. Non, je vous donne un exemple. Par exemple, il disait aujourd'hui.
Il a fait beaucoup pour le mime Marceau.
Le marketing aujourd'hui, ça dépend plus de la façon dont les gens réfléchissent, etc. On ne s'occupe que de la façon, de ce qu'ils font, de comment ils se comportent une gondole dans un magasin.
Non, ça pouvait être utile pour, par exemple, les entretiens d'embauche. C'est-à-dire qu'on vous donnait des conseils. Et c'est vrai, c'est ce que vous faisiez
aussi. Ça aussi.
De dire, tiens, voilà, vous êtes en entretien d'embauche.
Vous grattez pas le nez.
Voilà, vous grattez pas le nez, faites pas ci, faites pas ça.
Ouais. Ça c'est, on a besoin de pour savoir.
Ne
ça,
sautez pas sur votre chaise.
Voilà.
Quand vous parlez.
Voilà.
Non, mais c'est pas ça. Ce qu'il disait, c'est par exemple, faut pas croiser les bras, parce que sinon ça veut dire que t'es sur la défensive.
Voilà, exactement.
Ouais. Et par exemple, Sarkozy disait, à chaque fois qu'on lui pose une question gênante, il a les sourcils en accent circonflexe comme un élève pris en faute, du style, c'est pas moi qui ai fait tomber l'encrier. Bon. Mais voilà, mais ça allait pas très loin, ça pissait pas loin quand même.
C'est pas rien de dire ça à quelqu'un qui vient de nous quitter.
En revanche, c'est vrai que c'était un très très bon conseiller en marketing.
Ah,
bon.
Oui.
Et alors, il avait lancé un certain nombre de... Non, il avait prévu un certain nombre de trucs, le hard discount et des choses comme ça. Et là, il nous annonçait la fin des hypermarchés.
Ah,
très important. Oui, la fin des hypermarchés qui ne correspondent plus du tout au comportement des clients. Parce que ça, c'était dans les années 70.
On voit pas mal d'hypermarchés... Ils ont du mal à bouger.
Ouais, ils sont lourds.
Ils ont le rayon à moitié fermé. Ouais.
Les mammouths ont déjà disparu.
C'est un peu comme les mammouths, ouais. Quoi. Ça,
pourtant, lui, maintenant, il va connaître la vie au champ.
Il disait un truc assez marrant. Il disait, il faut pas confondre les consommateurs et les clients. Il dit, les consommateurs, c'est les mecs qui rêvent d'avoir une planète pas polluée, etc. Les clients, c'est des mecs qui roulent en 4x4 et qui jettent leur paquet de clopes par la fenêtre. Donc, c'est ceux-là qu'il faut servir. D'ailleurs, t'étais pas très citoyen, comme conseil, hein. Mais voilà, il faut plutôt aller vers les clients que vers les consommateurs. Il faut pas s'occuper de ceux à quoi ils croient, mais ceux qu'ils font. Voilà.
Bon, il était plutôt marrant quand même, voilà. Monsieur Chétochine.
Monsieur Chétochine, paix à son âme.
On aimait bien le voir.
Moi, je l'aimais bien.
On aimait bien.
Contrairement à vous, je l'aimais bien. Moi, j'ai de la peine qu'il soit mort.
Mais moi aussi, monsieur Kersozon, moi aussi.
Et je regrette qu'il soit pas avec nous aujourd'hui.
Mais on peut pas parce que,
d'abord. Il se foutra bien de votre gueule avec vos comportements que vous avez.
Vous avez vu vos gestes, vous, là, vous êtes là à triturer les touillettes.
Vous m'énervez.
Est-ce que je triture les touillettes, moi, monsieur? Si je demandais à monsieur, tiens, s'il était là, monsieur Chetoshin, il saurait sûrement m'expliquer pourquoi.
Ben, oui, ben, il dirait que c'est un être généreux et bon, moi, en train.
Quand on triture une touillette, on est généreux et bon.
En train de regarder un animal excité, pervers et malsain. Et il dirait que je suis un des bienfaiteurs de l'humanité de venir ici à vos côtés pour essayer de remettre de l'humain dans vos gestes et vos paroles.
Aïe! Ça c'est un geste de solidarité que vous venez d'entendre vis-à-vis de Joujou qui s'ennuyait. Et parce que dès que je m'intéresse plus à lui, Joujou, Joujou est un peu jaloux. Il faut le dire. Allez, une question toute simple. Hein. Normalement, vous devriez répondre facilement. Où vit-on le mieux au monde? C'est même un titre de France Soir aujourd'hui.
En France.
En France. Non.
C'est toujours dans les pays scandinaves.
Puisqu'une enquête vient d'être publiée, un classement mondial des villes où il fait bon vivre.
Copenhague.
Donc, c'est un nom de ville que je vous demande. Une enquête publiée par le cabinet de conseil Mercer. Étude élaborée à partir de 39 critères prenant en compte divers facteurs politiques, économiques, environnementaux ou encore la santé et les transports. La France avec Paris n'est qu'à la 34e place.
Non, Paris, c'est pas étonnant.
C'est toujours Marseille.
C'est pas Marseille, non, parce que la France est 34e avec Paris, mais c'est donc pas une autre ville française.
C'est que des capitales.
Mais il y a l'état des gens aussi, c'est-à-dire il y a des pays qui sont plus ou moins dépressifs que d'autres.
Ce ne sont pas que des capitales.
C'est pas Bruxelles. On demande l'avis, parce que c'est ça. Allô, aussi.
C'est que l'Europe. Hein.
Pardon, mais c'est l'impression aussi des gens. Quand on fait le sondage, est-ce que vous êtes heureux de vivre dans telle ville, il y a des gens qui sont plutôt, on va dire, optimistes.
Il y a des critères objectifs et c'est un classement mondial, puisque c'est un classement américain.
Alors je crois que c'est Bagdad.
Non.
Juste avant Bassorah et Kaboul.
Ça ira mieux.
Juste avant Kaboul. Mais c'est souvent Copenhague ou Stockholm ou des villes comme ça.
Non, mais c'est pas Copenhague ou Stockholm.
C'est en Europe.
C'est en Europe.
Ah, c'est en Europe.
C'est en Grèce.
D'ailleurs, l'Europe est à l'honneur hein, dans ce classement des villes où il fait bon vivre.
L'Europe du Nord.
Non, les trois villes en tête sont des villes européennes.
En Italie?
Corfou?
Non.
C'est pas l'Italie?
L'Espagne? Et après, on a des villes effectivement d'autres continents comme Vancouver au Canada et Auckland en Nouvelle-Zélande qui sont quatrième et cinquième.
Espagne?
Les villes
où on vit le mieux.
Où on vit le mieux, puisqu'Olivier fait son retour. Oui. Il est allé fumer avec le gamin de 2 ans. Et...
ouais, il m'a pris mon paquet.
Ah oui, gérontophile en plus.
Oh là.
Alors, quelle est la ville où on vit le mieux au monde d'après ce classement du cabinet américain en question?
C'est pas le Havre?
Non. Je vous ai dit que c'est pas une ville française. Londres est 39e, hein, derrière Paris quand même.
Barcelone?
New York se classe juste après Madrid à la 49e place.
C'est une ville dans laquelle il y a du soleil?
Plus que ça, non, ah mais bon. Ou apparemment, niveau santé, moi perso, je suis pas sûr que j'aimerais y vivre.
Hein. Berlin?
Non, remarquez, j'y suis jamais allé pour tout vous dire dans cette ville.
Alors, il faudrait trouver le pays déjà.
Est-ce que c'est dans l'hémisphère nord ou sud?
Nord, mais c'est un pays auquel on ne pense jamais.
Nuremberg?
Non.
C'est l'Europe de l'Est?
Je suis pas sûr qu'on appelle ça tout à fait l'Europe de l'Est, mais oui, on va dire oui.
C'est pas tout à fait
Prague?
Tout à fait.
Non, c'est en Pologne.
Pas Prague.
Vienne.
Varsovie.
Vienne. Bonne réponse. Isabelle Motreau, Vienne.
Qu'est-ce que c'est les critères objectifs alors?
Ah bah Vienne, il paraît qu'il y a des caves bien humides pour les enfants.
ça l'Autriche pour ça est son numéro 1.
C'est assez curieux. C'est vrai. Moi j'irais pas vivre en Autriche.
Non.
Le Tyrol, ça doit être sympa.
La capitale autrichienne reste la ville la plus agréable selon ce classement américain.
Oui, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est quelles questions ils ont posées pour obtenir ce genre de réponse.
C'est-à-dire?
Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé aux gens quoi?
Bah, par exemple,
c'est pas la propreté
côté. On n'a rien demandé aux gens, ce sont des critères. On
le bord de mer à Vienne, c'est magnifique.
J'ai des amis qui sont allés il n'y a pas longtemps.
Le soleil de Vienne.
J'imagine que c'est par exemple le nombre de musées pour juger du niveau culturel de la ville. C'est par exemple, j'imagine, le nombre de cabinets médicaux. Est-ce que les gens sont bien remboursés pour la santé? Est-ce qu'il y a assez de vélos, de restaurants, d'espaces verts? Est-ce que les gens meurent âgés là-bas ou pas? C'est tout ça. On n'a pas posé de questions aux gens. C'est comme le classement du point régulièrement sur les villes françaises. Vous voyez, c'est en fonction de critères objectifs. Évidemment.
D'ailleurs, c'est là-bas où le président a été réélu avec je sais pas combien de...
Exactement, à Vienne, bien sûr. C'est beau, Vienne.
On va écouter...
Barbara.
On va écouter François Feldman, là.
Ah, c'est vrai que c'était joli, cette chanson.
Les valses de Vienne.
Les valses.
Joli, c'est pas le mot.
Que de Vienne.
Les valses. Comment c'était déjà?
Je sais pas.
Que de Vienne.
Ah, c'est vrai que c'est joli.
Vous avez vu?
Maman.
Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est bien de vivre là-bas? Parce que là-bas, ils connaissent pas cette chanson.
Bah, François Feldman, on l'a oublié ici aussi.
C'est sûr que la fête des mères à Vienne, ça doit être vachement bien.
Bah, ouais, bah, bien sûr.
Je sais pas s'il y a une fête des mères à Vienne.
Oh, bah. Non, il y a pas de mères.
Non, ils ont pas eu de Pétain.
Mais, bah, non.
Il y a des mamans en Autriche, comme il y en a partout.
Oui, mais il n'y a pas la fête des mères dans tous les pays. Il y a des pays qui ne fêtent pas la fête des mères.
Bien sûr.
Comment ça, il y a des pays qui ne fêtent pas la fête des mères?
Sûrement, oui.
Au Gabon, il n'y a pas de fête des mères.
Ben, croyez pas ça. Parce que, alors, justement, ce n'est pas la fête des mères. Mais je peux vous dire que, par exemple, au Togo et au Monténégro.
Mais c'est pas pareil, le Togo, le Monténégro et le Gabon, faudrait peut-être. C'est la grossièreté culturelle de ce mec est colossale.
D'abord, Monténégro, c'est pas en Afrique, alors bon, alors c'est quoi?
Non, mais attendez, qu'il n'y a pas de mer.
Je vous ai pas. J'ai pas dit, un, que c'était forcément en Afrique. Deux, ça concerne pas la fête des mères, mais ça concerne une fête. Et c'est la première fois qu'on la célèbre, cette fête, au Togo ou au Monténégro. Alors.
C'est une fête qu'on a chez nous?
Une fête qu'on a chez nous.
C'est la fête des voisins.
La fête des voisins. Bonne réponse de Philippe Alfonsi.
Ils ont copié.
On en parlait déjà hier, puisque c'est ce soir la fête des voisins, des tonnes de taboulés, de quiche Lorraine et d'amuse-bouche.
Oh le taboulé.
Hey, t'as choisi ton jour pour revenir.
Ah, oui,
tu vas pas te faire chier ce soir.
Vous avez des voisins, Olivier, forcément des voisins.
J'ai pas de voisins.
Ben si, comme tout le monde, vous avez des voisins.
Des voisins vivants.
S'il est en mer, il risque pas d'avoir de voisins.
Que des voisins morts.
Il habite dans un cimetière.
Vos voisins vont préparer un peu de taboulé, des quiches Lorraine. Vous allez vous installer dans la cour de votre immeuble ou de votre cage d'escalier et avec le concierge, avec la petite vieille du troisième, le couple de célibataires qui vivent en coloc au premier étage. Tous, vous allez vous réunir ce soir autour du taboulé avec quelques petites bougies. On met des bougies.
Mmh. C'est obligatoire le taboulé, là?
Quand la nuit tombe, c'est pas obligatoire.
Les bougies aussi, c'est obligatoire.
Mais une bonne fête des voisins sans taboulé,
ça marche pas.
C'est pas une fête des voisins. Alors, ils ont fait un truc marrant dans Le Parisien. Je sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui. Parce que, elle a 10 ans, hein, on le disait hier, elle a 10 ans déjà, la fête des voisins. C'est qu'ils ont pris la photo qu'il y avait il y a 10 ans des voisins qui étaient ensemble pour, ils étaient pas nombreux à l'époque pour célébrer la fête des voisins.
Même place.
Et ils ont repris tous la même place et on les voit 10 ans plus tard.
Personne n'a déménagé.
Alors oui, il y en a quelques-uns qui ont déménagé, d'autres qui sont morts. Voilà, on voit comment on évolue en 10 ans. Je peux vous dire, du taboulé une fois par an, ça maintient.
Ouais, il a habillé pareil, dis donc.
C'est assez rigolo comme
après.
Idée.
Ah oui, un petit Asiatique, il n'a pas été expulsé entre nous.
Alors, il n'y a pas que la fête des voisins, il y a les apéros géants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Olivier, mais depuis que vous êtes parti, c'est devenu la mode, mais partout en France, au point que le ministre de l'Intérieur, monsieur Hortefeux, soit obligé, si ce n'est de les interdire, en tout cas de les encadrer par des CRS. Et il y a quelqu'un, aujourd'hui, dans la presse, qui dit que, franchement, lui, il aurait adoré, s'il était plus jeune, participer à un apéro géant et qu'il ne comprend donc pas qu'on s'en prenne ainsi à ces manifestations.
C'est Borloo.
Non, c'est pas Jean-Louis Borloo.
Non, c'est Johnny Hallyday.
C'est pas Johnny Hallyday.
Mitterrand. C'est un vieux, alors, quelqu'un d'assez
Général de Gaulle.
Quelqu'un qui dit « J'aurais adoré, si j'étais plus jeune, participer à un apéro géant ».
Un politique.
Il faut être vraiment vieux pour pas y aller.
Un politique qui
alors,
dit ça.
Alors, devinez, bah oui, c'est un politique qui ça peut être. C'est forcément.
Nicolas Sarkozy.
Non, c'est forcément dans ces cas-là.
Jack Lang.
Jack Lang, bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, quand on a inventé la fête de la musique, forcément, on est aussi pour l'apéro géant. Et Jack Lang qui dit même, franchement, à Paris en plus, où le moindre café coûte 2 euros, on peut comprendre que les jeunes préfèrent amener leurs boissons eux-mêmes, se réunir dans un parc, sur le Champ de Mars ou ailleurs, pour faire leur apéro eux-mêmes, plutôt que d'aller devoir dans des cafés où on peut plus fumer en plus. Hein,
en plus.
À l'âge de 2 ans même, on n'a pas le droit de fumer. Et ben, et participer à un apéro géant, ça a quelque chose de convivial.
De plus en plus de fumoirs à Paris quand même, heureusement quand même, hein, dans les restos. Ben, y a plein de restos avec des fumoirs, et ça c'est vachement bien. Vous n'avez plus besoin d'aller vous geler les couilles, vous allez au fumoir, c'est vachement
confortable.
Il faut
même des suçoirs maintenant.
Hein,
des suçoirs.
Des suçoirs. Tu sais, ils ont même remplacé pour toi, Philippe. Et après la pee hour, ils font la pipe hour maintenant. un verre.
Dites, alors vous devriez pas parler, vous, Titoff, parce que j'ai lu qu'à Marseille, plus ça allait, plus on fumait dans les restaurants. C'est une enquête qui vient d'être réalisée.
Ah bon, c'est bizarre. Hein.
Et ben, ils respectent pas du tout la loi.
Il y a même certains endroits en Corse, ils ont jamais commencé. Quoi.
Alors voilà, c'est la ville où on fume le plus encore.
Ça m'étonne.
Dans les restaurants. Et oui, parce qu'il paraît qu'une fois que il est passé 22h, on dit aux clients.
Bah après, si c'est privatisé, tu fais ce que tu veux.
Ah bah c'est pas privatisé, un restaurant. Non,
bah quand il a fermé le restaurant, tu sais.
Ça y est, à Paris aussi, il commence à être un peu plus tolérant dans les restaurants.
C'est vrai.
Ouais.
Non mais Marseille, c'est normal dans les dom-toms, c'est jamais les gens comme ici, si tu veux.
Jack Lang est pour l'apéro géant. Et vous, Olivier, alors est-ce qu'on en fait en Polynésie des
sur le bateau, tiens.
Des apéros géants. En Bretagne, je vous pose pas la question, c'est même le nom de la région.
La Bretagne est un apéro géant. Depuis des années, ça fait.
Mais en Polynésie, quel est l'apéro qu'on boit en Polynésie et sur la plage?
Je bois pas, moi.
Non, mais vous voyez bien les autres faire.
Non, je vois personne.
Les femmes, faut bien que vous les fassiez boire.
Bah oui.
Non.
C'est pas gentil, ça.
Ça coûte moins cher.
Il y a bien un apéro local en Polynésie, quand même.
Pas à ma connaissance. Ouais. Je connais, non, ce que je connais pas, moi. Je vis pas dans comme vous, à essayer de courir les escaliers d'un immeuble pour bouffer un peu de taboulé gratos.
Ah, c'est pas le taboulé, c'est le tamouré, en Polynésie.
Je pas ces trucs-là, moi.
Vous dansez le tamouré?
Ça serait bien que tu nous montres.
Je vois Olivier sur la plage. En slip Franck Dubosc.
On l'imagine tous.
Non, il est peut-être là.
Avec 3 vahinés, un morceau de taboulé.
Il met peut-être un petit pagne.
On a le droit de rêver, Olivier.
Ou de se faire peur.
Dans un instant, le livre de la semaine sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner.
Le livre de la semaine.
Un livre plutôt pas mal classé dans les meilleures ventes du moment. Vous connaissez peut-être Alix de Saint-André, puisqu'elle fut parfois chroniqueuse, journaliste, entre autres sur Canal+, mais c'est avant tout aujourd'hui une journaliste écrivain qui publie donc En avant route chez Gallimard. J'ai confié ce livre à Isabelle Motreau, à Philippe Alfonsi et Fabrice Eboué. Alors, En avant route, qu'est-ce que ça vaut, Isabelle? Avant que je commence par Fabrice Eboué.
Oui, je pense que ça serait mieux.
Je pense que c'est la bonne chose.
Qui pourrait que peut-être
nous... le pitch. Je vois un marque-page à la 10e page,
en fait, plein, d'ici. Plein.
Vous pouvez nous pitcher
les 3 premières pages.
Il y a plein de petits papiers entre chaque page du bouquin, puis à côté, il y a une feuille déchirée. En fait, ils viennent les mettre pendant la pub, ces petits papiers.
Ah, c'est mon livre, d'accord. Je me disais, mais où il est?
Vous êtes un vrai fumiste.
Mais non, je l'ai lu. Ce
alors, si vous l'avez lu, parlez-moi.
Donc, j'étais en week-end de Pentecôte en Normandie. C'est vrai qu'il a fait assez beau, donc j'en ai profité pour me mettre dans mon jardin. Et j'ai lu ce petit livre. Très sympa. Alors, c'est un bouquin qui fait 300 pages, à peu près. Donc, c'est un bouquin que ça se lit facilement. C'est une femme qui part faire le fameux pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui.
Donc, voilà, peut-être expliquer à nos amis qui sont pas forcément tous catholiques, qui nous écoutent. C'est un pèlerinage où on va, voilà, adorer des ex-voto. Enfin, voilà. Alors,
c'est même pas ce que c'est.
Bon, écoute, je me suis pas formé pendant 6 ans en école catholique.
Putain, par contre, que ça a duré plus longtemps que ça.
Et alors, alors?
Alors, je voulais. Il y a un passage que. Peut-être pour illustrer la manière dont c'est écrit, parce que c'est très pertinent. Toutes les vierges de toutes les églises étaient déjà en larmes. Et on leur brodait de nouvelles robes pour un nouveau deuil, car cette année encore, Jésus allait mourir dans les rues de Séville. Dans les rues de Séville. Enfin, la Lucchini, il rappelle toujours les phrases comme ça. Pendant 3 jours et 3 nuits,
la ville entière se transformerait en calvaire. C'est ça qui est extraordinaire. L'auteur est énorme. Il nous permet comme ça d'arriver à des phrases toutes simples, mais il dit énormément. Donc je suis dans la merde. Je vais laisser Alphonse dire ce qu'il a pensé du bouquin.
Non, Hubou, c'est pas bien de ne pas faire votre travail. La prochaine fois, on le donnera à Titoff, parce qu'au moins, on sera prévenus.
Non, non.
Isabelle, alors.
Alors, effectivement, c'est tout ce qu'a dit Fabrice est merci. Vrai. Oui. C'est une jeune femme, c'est Alix de Saint-André, hein, elle dit je, et c'est elle-même, qui fait le chemin de Compostelle. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi elle le fait au départ, mais elle va le faire trois fois. Alors, elle nous raconte... ce que c'est que ce chemin de Compostelle qui quand même, le premier qu'elle fait 600 km à pied. Elle part sans être du tout préparée, ni physiquement, ni psychologiquement. Donc, ça se passe pas super bien.
Elle s'est passée chez Decathlon, quoi.
Et voilà.
Voilà.
Exactement.
T'as vu, je l'ai pas lu, mais je m'intéresse, hein.
Et donc, voilà. Et donc, elle raconte ce parcours qui va...
Elle aurait mieux fait d'aller chez Katorama.
Qui va devenir au fur et à mesure, parce que donc elle en fait un, puis deux, puis trois, des voyages qui sont de plus en plus spirituels, on va dire, et elle finit par retrouver, enfin, elle a la foi au départ, mais on sent que c'est un peu lointain, et puis finalement elle va retrouver
la foi
comme ça, voilà. Et surtout, elle raconte ses rencontres, et elle rencontre des gens, alors les gens qui font le chemin de Compostelle, il y a quand même de tout, hein, et c'est en général un peu des branques qui ont comme ça une idée fixe, qui sont en dehors de ce qu'on croise dans la vie.
Il y avait eu un film de Colin Serrault.
Oui, oui, tout à fait.
Avec Muriel Robin et Pascal Légitimus, entre autres. Donc c'est à peu près la même ambiance.
C'est pas la même ambiance, mais c'est bien ça aussi, quand même. C'est quand même tous ces gens qui font un truc qui est quand même physiquement super dur. Ouais. Et pour des raisons qui sont quelquefois complètement presque opposées. Il y en a qui font le chemin, qui sont vraiment cathos, chrétiens, etc.
Mais c'est quoi, c'est drôle, c'est...
Oui, alors c'est à la fois drôle, parce qu'il y a des gens quand même, comme je le disais, qui sont très inattendus. Mais il y a aussi des choses assez tendres. Elle est finalement, au départ, elle fait ça un peu comme ça, pour la frime, j'allais dire. Et puis finalement, elle se fait avoir elle-même par le charme du chemin, quoi.
Olivier, voilà. Non, d'accord. Je suis sûr que vous seriez du genre à le faire le. Alors là, pour le coup. Vous...
Ah non, ça, je commence, pense que.
Le pèlerinage.
Ah oh, bah, c'était aussi.
Je fais que ça, moi. Je fais croire que je suis à Tahiti, mais dès que je quitte le studio, je vais à Compostelle.
Bah, évidemment.
Je vais chez Decathlon d'abord.
Mais alors, est-ce que vous le conseillez, ce livre,
Isabelle? Oui, moi j'ai beaucoup aimé.
Beaucoup aimé, Isabelle Motreau. Alphonse.
Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre très drôle. Parce qu'elle est drôle, voilà. Elle décrit de façon tout à fait rigolote tout ça. Et même quand elle tombe un peu dans la bondieuserie à la fin, c'est drôle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un regard comique sur les gens qui l'entourent, sur elle-même. On parle beaucoup de mal aux pieds, mais c'est très drôle. Et les personnages qu'elle rencontre, c'est vrai, c'est des banques absolues, quoi. Bon. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, ça, on me l'avait raconté aussi, il paraît que les gens qui font le chemin de Compostelle, vous avez des gens qui sont parfaitement athées, vous avez des juifs, vous avez des gens de toute religion, de tout profil social, et ils se retrouvent sur cette route à faire ce chemin insensé. Alors et c'est très très bien écrit. Moi, j'ai trouvé le bouquin vraiment et drôle, parce qu'elle se moque d'elle-même, elle se moque des autres, elle se moque des cathos, et ça fait plaisir, quoi, parce que c'est tout d'un coup complètement désacralisé, pour en effet à la fin retrouver une note de spiritualité, mais c'est léger, hein, c'est donc
un succès mérité.
Livre marrant, bien.
Une des bonnes ventes en librairie en ce moment, En avant, route, signé Alix de Saint-André, et en plus, vous voyez, Alphonse Motreau et aussi Fabrice Éboué.
Il nous a fait une très belle interprétation.
Vous le recommande. Vous allez peut-être préférer Olivier à ce livre d'Alix Saint-André. La musique que je vais vous proposer maintenant, puisqu'il s'agit de la bombe roumaine du moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette jeune femme.
La bombe roumaine.
Oui, ouais, oui.
La bombe roumaine, c'est toi.
Elle s'appelle Elena Alexandra Apostoleanu, mais son nom de chanteuse, c'est Ina. Elle affole les hit parades, elle est première des ventes en roumaine.
Ah bah, une jambe de bois, c'est super excitant. Enfin,
numéro 1 dans le métro, je crois.
Non, elle est numéro 1 des ventes en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Turquie. Elle arrive chez nous en France, c'est la reine du dance floor en ce moment. Alors en plus, il paraît qu'elle est en tenue sexy dans son clip, elle fait des chorégraphies sensuelles.
Continue, on va faire une petite...
plus de 20 millions de vues sur YouTube. Elle est en passe de devenir le phénomène du moment. Vous vous souviendrez que j'aurais été un des premiers à vous en parler.
On l'a noté,
de Ina.
C'est la nouvelle Lady Gaga, quoi.
Alors, peut-être pas quand même, mais.
Comme elle est roumaine, c'est Lady Gagou.
Lady Gagou, absolument.
Et en tout cas, elle chante quelque chose qui s'appelle Hot.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pompon.
La critique cinéma la plus sexy au téléphone, Monique Pantel. Bonjour Monique.
Bonjour, je suis débordée.
Ah oui, pourquoi ?
Il y a un chat sur mon balcon, il cherche à venir m'aider et à monter sur ma table.
Ah oui ?
Il y a deux hommes sur mon toit qui cherchent une fuite et moi qui cherche à empêcher la fin du monde. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de boulot.
Je ne comprends pas tout, mais je sens que Monique est en forme. En tout cas, vous avez évidemment vu le film Prince of Persia, Les Sables du Temps, avec Jake Gyllenhaal, car il faut prononcer Gyllenhaal et non pas Gyllenhaal comme je l'ai fait hier ou avant-hier. Oh. Jake Gyllenhaal, ce nouveau héros. Alors, il faut quand même dire qu'au départ, c'est un jeu vidéo, ça, hein, je crois.
Oui.
Prince of Persia.
Mais comme je n'ai pas vu le jeu vidéo, ça ne m'a pas dérangé.
Oui.
Il est très beau, hein, Jake Gyllenhaal.
Oui.
Sa fiancée Gemma Arterton est très mignonne.
Il y a Ben Kingsley aussi.
Il est très bien, c'est l'ennemi, il est très méchant. Et Alfred Molina, que je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il est très rigolo.
Dastan est un prince rebelle.
Il lutte pour sauver le monde de la destruction. Si les méchants réussissent, le temps ira à l'envers. J'ai la trouille.
Mais franchement,
c'est rigolo, c'est bien.
Ça vaut le coup.
C'est beau à voir.
Et ça marche, hein, je crois.
Alors, ça marche très bien.
Ouais. Bah, d'abord, tous les gens qui ont joué à Prince of Persia vont aller le voir.
Et il y en a beaucoup.
Ah ouais, il y en a beaucoup.
Mais c'est pas systématique. Parce qu'il y a plein de reprises de jeux vidéo qui ne sont pas des succès.
En tout cas, celui-là est assez réussi. C'est un bon divertissement. Et alors, il y a des images très étonnantes. Enfin, c'est du cinéma pop-corn, mais c'est bien fait.
Grand public pour aller en famille au cinéma ce week-end. Prince of Persia. Ça commence par la fin. On a pas mal parlé de ce film pendant Cannes, puisque c'est le film qui n'a pas été sélectionné et dans lequel, pourtant, Emmanuel Béart et Michael Cohen, qui sont couple à la ville comme à la scène, nous réserve, paraît-il, des scènes assez sulfureuses. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça commence par la fin et c'est réalisé par Michael Cohen lui-même,
le
compagnon d'Emmanuel Béart.
Ah là là, mets-le-moi, ne bouge plus, encore. Mais je me demandais, que font-ils pour être si contents? Car si on entend les bruits d'amour d'Emmanuel et de son compagnon, on ne voit rien. C'est embêtant pour les sourds.
Ah oui, belle critique.
C'est très mauvais. C'est très très mauvais.
Alors il y a un film sur la fête des voisins. Ça s'appelle La fête des voisins, le film.
Ça a l'air bien, ça.
Un film de David Haddad. Avec David Haddad. Qu'est-ce que ça vaut, ça?
Eh bien évidemment, j'y suis allé.
Eh oui.
Puisqu'on le jouait en bas de chez moi, vraiment en bas dans l'immeuble.
Eh oui, donc pour La fête des voisins, c'est parfait.
Je suis allé voir ce chef-d'œuvre d'Idiocy.
Ah.
Il y avait 4 vieux dans la salle, 3 hommes et moi. Je suis parti très vite, les vieux sont restés, continuer leur sieste.
Ils sont morts peut-être.
Alors qu'ils lisent, ils sont peut-être morts. Oui, oh là là, donc.
Mais c'est vraiment mauvais?
Oh mais c'est plus que mauvais. J'étais en colère, moi.
Pourquoi?
Parce que je me suis dit, mais pourquoi on fait des films si merdiques? C'est honteux pour la France, le cinéma français, qui est pas mauvais quand même.
Alors, je comprends pourquoi ça marche, Prince of Persia.
Parce que cette semaine, c'est vraiment le désert. Les sables du désert.
Et la semaine prochaine, attention. Hein,
ah oui?
Ça repart très fort.
Hein. Ah oui?
Il y a quoi?
La scène de City 2 que je vais voir tout à l'heure.
Ouais.
Et surtout, La tête en friche avec mon Gégé, qui paraît-il sublime.
Ah.
Ah, ça, c'est un grand film.
On attend effectivement pour la semaine prochaine le film avec Gérard Depardieu et Gisèle Casatsu, film de Jean Becker, dialogué par Jean-Loup Dabadie.
Ça doit être magnifique. Je ne l'ai pas encore vu, j'attends de le voir en salle avec le public.
Eh bien, n'en dites pas plus, Monique.
Non, je ne peux pas.
On attend vendredi. Très bien.
Voilà.
On attend vendredi prochain, on vous embrasse et on se retrouve dans un instant avec notre invité d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ?
puisqu'Olivier de Kersauzon est revenu dans quelques minutes. Olivier, vous pourrez rejoindre notre invité pour peut-être décrire physiquement cet invité. Vous seul avez ce droit, ce passe-droit, je dois dire, d'aller rejoindre notre invité mystère qui est là.
Je vous en remercie d'ailleurs.
Je vous en prie, Olivier.
À chaque fois pour moi, c'est un grand moment d'émotion d'être à côté du mystère.
Ben oui, c'est une surprise pour vous.
Oui, c'est toujours une surprise.
Et hier, par exemple, on avait la jolie journaliste Anne-Sophie Lapix. Vous auriez été là avant hier, vous auriez rejoint Régine dans la loge.
Oh, c'est sympa. Ça,
effectivement, je regrette de pas avoir...
Qui est là aujourd'hui? On va saluer notre invité du jour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
La voix est bien sûr.
C'est Raymond Barre.
Ce n'est pas Raymond Barre. La voix est manifestement bien déformée. C'est parti, à vous de poser des questions.
Est-ce que vous êtes magicien?
En quelque sorte.
Est-ce que vous êtes une femme donc?
Je suis une femme.
Est-ce qu'il vous arrive en soirée de vous faire des fausses moustaches?
Non.
Et pour rigoler à la maison?
J'ai pas encore essayé.
Alors, est-ce que vous êtes chanteuse?
Non.
Non? Vous êtes une artiste?
J'espère.
Alors, plus une comédienne?
Non plus.
Vous écrivez?
Oui.
Dans les journaux?
Ça m'arrive.
Ça arrive.
Mais principalement des livres?
Oui, principalement.
C'est la littérature de plage, plus, ou du métro?
Plage et métro, c'est des gros tirages. En
oui, vous écrivez vous-même vos romans?
Oui, ça suffit de vous dire
pour
ça.
Pour l'instant, oui. Ouais.
Vous écrivez plutôt quoi, des romans?
Oui, plutôt des romans.
Vous en avez écrit beaucoup déjà?
Cinq.
Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur?
À la main.
Le matin ou le soir?
Écoutez, ça va pas vous avancer, ça.
C'est bon, on a trouvé.
Peut-être. Est-ce que l'un de vos romans a été adapté au cinéma?
Mais voilà, c'est ça que je voulais poser.
Pas encore, elle a dit.
Pas encore. Et peut-être, pardon, là, je vais essayer de vous diriger. Peut-être, c'est pas la seule activité de notre invité.
Est-ce qu'un de vos romans a été adapté au théâtre?
Non, mais j'ai déjà fait du théâtre.
Est-ce que vous avez écrit un roman sur Saint-Jacques de Compostelle? Parce que je l'avais lu, celui-là.
Est-ce que vous êtes journaliste?
Non.
D'accord.
Bon, j'ai un premier indice pour vous.
En t'attendant, la vie prend des reflets de sucre d'orge. Ton père noue des écharpes douces sur ma gorge. En t'attendant, vent prend des rires d'enfants en rafale. Moi, ça me donne des envies pas trop banales. Pas comme avant.
En t'attendant, c'est une chanson d'Isabelle Boulet dont je viens de vous offrir un extrait. Est-ce que ça vous aide autour de la table?
Est-ce que vous êtes de la même... Est-ce que vous êtes canadienne?
Non.
Est-ce que vous avez fait de la télévision?
Très peu.
Quel rapport avec Isabelle Boulet?
Je pensais que c'était un homonyme de
Stevie.
Boulet. Stevie Boulet.
Est-ce que vous portez des bottes avec des jupes?
Je me rappelle que je suis une femme écrivain, donc Stevie Boulet, non.
Bravo. Il nous cache des choses.
C'est un homme qui écrit pas.
Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson?
Oui.
Bravo, Isabelle Motreau.
Oui, mais bon.
Réfléchissez, on se retrouve après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bon, on avance, mais on avance doucement. On sait que notre invitée est une femme, qu'elle écrit des romans, 5, nous a-t-elle précisé. Elle a déjà aussi participé à des aventures théâtrales, manifestement. On n'en sait pas beaucoup plus, parce que vous n'avez pas creusé de ce côté-là. Mais on vient d'apprendre aussi, grâce à Isabelle Motreau et à la chanson d'Isabelle Boulet, qu'elle a aussi écrit des chansons. Vous allez en plus avoir une petite description physique, puisque Olivier de Kersauzon ne devrait pas être très très loin de notre invitée. Olivier, vous avez atteint la loge de l'invité d'honneur.
Ouais.
Et alors?
C'est une femme.
Vous la connaissez?
C'est une femme, il dit.
Vous la connaissiez?
Non.
Ah, vous ne la connaissiez pas?
Mais je suis content de la voir.
Oui, vous la trouvez jolie?
Oui, elle est charmante. Elle a l'air intelligente en plus. Ce qui est assez exceptionnel chez une femme.
Et après 3 mois en mer, ça fait quoi?
Non, mais je la verrais bien dans une fête de voisins.
Et alors, vous la décririez comment pour mes petits camarades?
Grande?
Oui.
Blonde?
Oui.
Un visage grave avec des nuages de malice, du charme.
Je crois qu'il veut se la faire.
Ouais, à mon avis,
je crois qu'il veut se la faire. Oui.
C'est bien parti là.
Alors, pas mal, hein.
Peut-être vous pouvez poser d'autres questions maintenant.
Est-ce que certains de vos romans ont été récompensés par un prix célèbre?
Non.
Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue?
Pas quand j'en ai pas envie.
C'est... Vous pouvez préciser, vous êtes travesti,
qu'est-ce que vous voulez dire
que je pense qu'on suscite ça et que quand je fais mes courses au supermarché, personne ne me reconnaît.
Oui, ou qu'on n'est pas
connu. Au Festival de Cannes, on me reconnaît par exemple.
Ah, vous étiez au Festival de Cannes ?
Oui.
Donc, est-ce que vous avez déjà écrit des scénarios pour le, oui. D'ailleurs pour le cinéma par exemple ? Oui, ça
oui.
Tombe
oui.
Bien.
Oui, ah, oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez écrit des chansons pour d'autres chanteuses qu'Isabelle Boulay ou d'autres chanteurs ?
Oui.
Pour Johnny Hallyday ?
Non.
Pour des chanteurs très connus.
Oui, très connus.
Et manifestement, il n'y a pas que des chanteurs, oui. Puisque j'ai un autre indice pour vous.
Eh ben, ça tombe bien que tu sois dans le lit, il faut que je te parle. Dis-moi, la nana qu'on a rencontrée au restaurant l'autre jour, c'est l'ex à toi. T'as couché avec elle? Non, pourquoi tu me demandes ça? Oh, ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Vous allez voir, c'est du vécu ce soir. Alors moi, tu me demandes si tu t'en fous et que c'est du passé. Oh, bah t'es trop mignon, toi. Eh ben, tu sais quoi? De toute façon, ça sert à rien que tu me le dises. Je sais que t'as couché avec elle. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'était il y a 20 ans, c'est du passé. J'arrive pas à croire.
Fabrice.
On peut dire si on a trouvé?
Oui, allez-y.
Je suis assez étonné, vous êtes mannequin?
Non.
À qui vous pensiez?
Estelle Hallyday, mais je me suis dit, cette émission-là, c'était un peu trop.
Si Estelle Hallyday avait écrit 5 romans, ça saurait quand même, franchement.
J'ai pas reconnu, moi.
C'était Arthur. C'était Arthur qu'on a entendu.
Est-ce que c'était Arthur qu'on a entendu?
C'était Arthur.
Et vous avez fait quoi? Vous avez co-écrit le spectacle?
Non, j'ai écrit il y a longtemps pour Arthur. J'étais.
À la télévision?
Au tout départ de ma carrière, j'ai été l'oreillette d'Arthur et j'ai créé ses lancements.
Et alors, et les oreilles propres?
Est-ce que vous avez fait de la radio avec Arthur?
Non, mais j'ai fait de la radio. Ici, sur cette station.
Ouais, d'accord.
Vous travaillez à Canal Plus aujourd'hui?
Non, je ne travaille pas du tout à la télé.
Un petit indice supplémentaire.
C'est... Un gars, non, c'est Caméra Café.
C'est pas ça? C'est
Caméra
un gars.
C'est quoi? Caméra Café, ça.
Vous avez identifié?
Caméra Café.
C'est Caméra Café.
Ouais.
Vous aimez le café?
Donc vous aimez les caméras?
Donc vous avez joué dans Caméra? Non, vous êtes pas.
Vous avez écrit donc, Caméra Café.
J'ai écrit. Vous avez écrit les épisodes de la première saison de Caméra Café.
Ah, on avance.
Et quand vous faisiez de la radio à Europe 1, vous étiez seul au micro?
J'étais seul au micro.
Avec des invités.
Dans l'émission de Michel Field.
Là, quand même, le puzzle commence petit à petit à se reconstituer. Mais manifestement, vous n'y pensez pas pour l'instant.
Non, mais ce qui est marrant,
vous faisiez des chroniques chez Michel Field?
Oui.
Ce qui est marrant, c'est le grand écart entre auteur de romans, de chansons, sketch. Arthur, Michel Field, Caméra Café, c'est.
Vous faisiez des chroniques.
Qu'est-ce que vous dites?
Je dis que moi-même, ça m'inquiète en vous racontant tout ça.
Est-ce que vous faisiez des chroniques littéraires?
Oui.
Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène, seul?
Non.
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'on trouve qui vous êtes?
Est-ce que vous faites
plaisir à ma grand-mère.
Est-ce que vous faites de la mise en scène théâtrale?
Non, pas de mise en scène théâtrale.
Réfléchissez, et peut-être vous trouverez les bonnes questions à poser après ces quelques réclames. Alors c'est vrai que les indices sont tellement divers et variés que mes camarades sont totalement paumés. Ils se demandent, mais qui peut être cette femme qui a écrit des chansons, qui a écrit des romans, manifestement des pièces de théâtre, qui a écrit pour le cinéma, qui a écrit pour Arthur, qui a écrit pour Caméra Café, qui est-elle? Eh bien, ils s'interrogent encore.
Et du coup, on a envie de la rencontrer.
Est-ce que là, on a fait le tour de vos activités ou est-ce qu'il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué?
Un domaine que vous n'avez pas évoqué.
La musique?
Artistique, ouais.
Est-ce que Kersouzon est rentré chez lui?
Non, il est à côté de moi, c'est en plaisir.
Il est sage.
Est-ce qu'il y a un petit gamin de 2 mois en train de fumer des clopes avec lui ou pas?
Il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué.
J'ai en tout cas moi un indice de plus.
Moi, je t'emmène en thalasso. Le sable est trop chaud.
D'accord.
J'ai trouvé.
Ouais.
Moi aussi.
Est-ce que vous avez écrit une pièce de théâtre dans laquelle jouait Gérard Darmon et où ça se passait dans une thalasso?
Exactement.
Oh, bravo, Tita.
J'ai trouvé.
Voilà.
J'ai trouvé.
Ah oui. Attendez, parce que vous dites toujours j'ai trouvé. Oui, vous n'avez jamais le nom. Alors là, je voudrais que vous posiez une question pour qu'on vérifie.
Est-ce que vous avez animé une émission de bien-être ?
Tu pensais à qui ?
À qui vous pensiez ?
Véronique ou Davina ?
À Véronique ou Davina.
Dans l'oreillette d'Arthur. Ouais.
Mais c'est votre seule pièce ?
Non, c'était ma deuxième pièce.
Deuxième ? Et c'est la dernière ?
Je vais aider tout le monde avec, évidemment, le dernier indice.
La vie tourne comme un remue-manège. Et les lettres viennent mourir dans la neige.
Bien sûr, ça y est. Ça y est.
C'est terrible.
Alors là, franchement, je suis vraiment.
Pas Titoff.
Je suis vraiment ravi et fier de vous avoir découvert.
Avant Patrick Bruel et la lettre au Père Noël, mais c'est vous quand même qui avez écrit cette chanson.
Oui.
Donc ça vous ramène quand même à votre écriture. On en a deux. Non, mais Bouy, il a toujours pas le nom, je suis sûr.
Moi, j'ai pas de nom.
Moi, je l'ai.
Et Isabelle Motreau non plus. Vous voyez, ouais, ça vous rassure, ça, quand même.
Ah, quel manque de culture.
À moitié, dit-elle. Alors, Fabrice, une tentative, alors? Une tentative, Fabrice et Bouy, vous qui faites le malin?
Tino Rossi.
Alors, attention. Je fais confiance, heureusement, à Jérémy Michalak et à Titoff pour qu'ils prononcent ensemble le nom de notre invité d'honneur. 1, 2, 3, c'est...
Amanda Sterz.
Amanda Sterz qui va nous rejoindre dans ce studio. Oh. On vous a un peu perdu avec trop d'indices, tue l'indice en quelque sorte.
Oui, beaucoup d'indices.
Parce que c'est vrai qu'il ne savait pas que vous aviez écrit pour Arthur, il ne savait pas que vous aviez écrit pour Caméra Café. Et vous-même, on vous a un peu rafraîchi la mémoire.
Voilà,
en fait.
Moi-même, j'oublie tout ça.
Bon, vous, ce qui compte pour vous en ce moment, c'est... Et le théâtre et la littérature. La littérature grâce à ce nouveau roman qui s'appelle Les Terres Saintes. J'ai eu l'occasion de vous recevoir à la télévision il y a quelques semaines pour ça. C'est publié chez Stock. De mémoire, je me rappelle que c'est un roman écrit sous forme... J'allais dire épistolaire ou mail, d'ailleurs, puisque vous utilisez les moyens modernes de communication. Toute une famille juive qui s'écrit.
Ah, et l'éleveur de cochons.
Bravo. Oui, ah, vous voyez, alors comme ça fait plaisir au moins.
C'était très drôle.
Qu'est-ce qui vous a gêné, embêté, amusé dans tout ce que vous avez entendu pendant que vous étiez dans la loge, Amanda?
Oh, rien ne m'a gêné, mais c'est vrai que c'est amusant de s'imaginer dans la tête des autres et que quand on a une image publique, c'est toujours troublé. On ne sait pas exactement ce qu'on retient de nous. En général, ce qu'on retient de moi, c'est le vieux juif blonde. Donc, si vous aviez dit ça, c'est
voilà, la pièce, le vieux juif blonde. Mmh. Mais j'ai fait exprès, évidemment, de ne pas de ne pas l'utiliser comme indice. Thalasso, c'est ce qui a mis sur la voie Titoff. Mmh. C'était la deuxième pièce. Il y en a une autre en préparation, une pièce ?
Il y a une reprise du vieux juif blonde à la rentrée de septembre. Et puis, il y a Dominique Bessner qui va monter sur les planches au printemps prochain.
En one man, monologue. Monologue de Dominique Besnard, écrit par Amanda Sterz.
Les monologues du Dazin. Ça va mal.
Remarquez là, on comprendrait que ce soit un monologue. Amanda Sterz publie Les Terres Saintes chez Stock. Dans un instant, on en parle ensemble jusqu'à 18h30. Les Terres Saintes, signé Amanda Sterz chez Stock. C'est l'histoire d'une famille déchirée. Le mot est peut-être fort. Non, on peut dire déchirée quand même. Séparée, en tout cas. Ça, c'est certain. Le couple, les deux enfants, le fils, la fille. On peut rappeler effectivement, Philippe Alfonsi a retenu ça au moins de votre passage à la télé. C'est que le papa s'est installé en Israël pour, ça c'est quand même l'originalité, la première originalité du livre, pour élever des cochons. Ouais. Mais ça existe. Vous me l'avez expliqué.
J'ai lu un entrefilet dans Le Monde Diplomatique, ce qui m'a donné l'idée du livre, où il disait qu'ils élevaient des cochons en Israël sur des planchers pour pas qu'ils frôlent la Terre Sainte parce que c'est interdit. Et ils les élèvent non pas pour en faire du bacon, mais pour chasser les terroristes parce qu'ils ont un flair hors du commun et qu'en plus, ils ont si un musulman très pratiquant touche un porc, il est interdit de paradis. Donc ils s'en servent et j'ai visualisé les soldats de Tzal avec des porcs au bout des laisses et je me suis dit c'est Woody Allen. Quoi.
Et est-ce que les musulmans jettent des crevettes sur les juifs aussi?
Non, Fabrice, enfin. Alors, faut expliquer qu'il y a, il y a leurs échanges par mail ou par lettre entre eux, la famille, mais il y a aussi un échange de courrier entre le papa, c'est Harry, hein, le papa, et le rabbin, hein, qui évidemment est un peu choqué par les activités professionnelles d'Harry.
Voilà, et en fait, ils se disputent et du coup, ils vont pouvoir défendre les deux points de vue, puisque c'est pas un livre politique, mais c'est forcément en Israël où on en parle. Donc, je pense que c'est deux histoires de famille. C'est la petite histoire de famille dans la grande. Et c'est l'histoire de famille violente que vivent les Palestiniens et les Israéliens, qui sont en fait des cousins, qui sont d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur les cochons. Et en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Et d'une lettre à l'autre, on donne raison à chacun à tour de rôle. Donc, c'est l'absurdité de ce conflit qui devrait trouver une fin heureuse un jour. Et puis pareil, c'est une famille qui se parle et qui...
Alors ça, c'est dans les autres lettres.
Voilà, ce sont les autres lettres, ce sont les silences, en fait.
Ce qu'on n'ose pas dire de façon orale.
Ou ce qu'on se dit trop tard, ou ce qu'on se dit quand les choses sont passées. Et ça, c'est commun à toutes les familles du monde.
Et parfois, par écrit, on arrive plus facilement à le dire aussi.
Oui.
C'est votre cas, vous dites les choses plus facilement par écrit?
Oui, moi, je suis assez pudique. Et je dis pas facilement les choses, je le dis par écrit à travers mes livres souvent.
Vous ne connaissiez pas Amanda Sterz, Olivier de Kersauzon, mais je vous vois l'écouter passionnément, je dois dire, tout en évidemment torturant et triturant votre touillette habituelle, mais
il s'agit pas de moi, hein. C'est important de préciser, tu vois, parce que
ce que je veux dire, c'est beaucoup plus gros. Et et donc quand vous êtes rentré dans la loge, vous aviez tout de suite pas... Est-ce qu'elle a une tête d'écrivain, Amanda Sterz? Non.
C'est quoi une tête sport là, donc...
C'est quoi une tête d'écrivain?
Mais juste... C'est en général assez terne.
Ah oui.
C'est chiant, un écrivain. Ouais. C'est non, elle est charmante.
Ah bah dis donc. Putain. Les navigateurs, c'est joyeux en tout cas.
Je vais vous offrir son livre, alors, Olivier de Kersauzon.
Très volontiers. Tu veux pas l'inviter à ta fête des voisins, là? Faites du taboulé.
C'est votre genre, ça, je suis sur la fête des voisins, vous, Amanda Sterz.
Bah oui, figurez-vous.
Ah, je suis sûr. Ouais,
Olivier l'avait vu.
Mais je l'ai vu tout de suite.
Et j'étais persuadé de ça. Alors, ce soir, fête des voisins, donc.
Fête des voisins.
Vous avez préparé le taboulé, tout ça?
Je suis plus gâteau au chocolat, mais. C'est vous. Un peu de champagne.
Ah, c'est vrai, de mémoire, je me rappelle aussi que vous adorez cuisiner. Ça, c'est le genre de truc, faites même des échanges de recettes avec Laetitia Hallyday, hein. Pas trop alcoolisée quand même.
Bah elle fait Laetitia, elle fait des très bonnes penées à la vodka.
Mais sans penée.
Et son mari, il finit toujours l'assiette.
Ils sont cons. Les terres saintes, avec sur le bandeau ajouté par Stock, cette phrase que vous avez accepté de mettre en avant, une phrase dont d'ailleurs vous m'aviez bien précisé qu'elle n'était pas...
Non, c'est une vieille blague ashkénaze, oui.
Voilà, qu'elle n'était pas de vous, mais cette phrase, c'est « Quand il y a deux juifs dans une pièce, il y a trois avis ». Ça s'appelle...
Ce Jean-François Derek, il en rate pas une.
Ça s'appelle Les Terres Saintes. C'est signé Amanda Sterz. C'est chez Stock. Merci Amanda.
Merci à vous.
Et merci à vous, Frédéric Laurent. Rendez-vous demain pour les best-of sur Europe 1. Et puis en direct dès lundi à 16h.